la sainte vérité, et le peuple défendu et quelques-unes des armes et de la force du pouvoir des ténèbres, brisées et dispersées par la lumière et la puissance de la vérité en réponse aux principaux passages d'une lettre, écrite pour moi, et à laquelle j'ai répondu avant mon emprisonnement en ce lieu. Où je suis prisonnier depuis plus d'un an et demi, sans avoir enfreint aucune loi, ni donné aucun motif de ma part, moi qui ne suis venu qu'innocemment et paisiblement rendre visite à mes amis en prison. Par Isaac Pennington, prisonnier pour le témoignage de la vérité, car si j'avais pu renier la vérité, j'aurais pu éviter le piège, à la prison de Reading les arcs des puissants sont brisés, et ceux qui chancelaient sont ceints de force. 1 Sam 2, 4672, car c'est nous qui sommes la circoncision, nous qui rendons un culte à Dieu par l'Esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. C'est une chose précieuse que de voir cette écriture accomplie dans le cœur, d'éprouver là ce qui circoncit intérieurement, ce qui coupe le prépuce du cœur, lequel le recouvre et le voile jusqu'à ce qu'il soit retranché par l'apparition intérieure de la vie et de la puissance du Seigneur Jésus-Christ révélés au-dedans. Alors, quand cela est fait, je puis dire véritablement et sensiblement, je suis juif intérieurement. Comment cela se prouve-t-il? Eh bien, je suis circoncis intérieurement. J'ai senti en moi ce qui circoncit le cœur, j'en ai porté la douleur et la coupe intérieure, et j'en ai été circoncis. Ce qui se tenait entre moi et le Seigneur a été retranché. Le voile a été ôté. Ma nature raide de cou et rebelle à Dieu a été enlevée. Le mur de séparation est intérieurement abattu. Et maintenant je suis dans la véritable unité de l'Esprit et la communion avec mon Dieu, avec le Père et le Fils, dans cet Esprit Saint unique par lequel ils sont un. Préface. Une lettre m'a été envoyée par une amie très chère, datée du 5e jour du 11e mois, 1671, qui depuis longtemps était grandement affligée et ne trouvait pas de soulagement dans la voie de sa profession antérieure et de la communion de son Église. Pour elle, j'ai beaucoup lutté auprès du Seigneur, et mon esprit, à son égard, a été rendu très tendre par lui. Je sentais toujours le sceau de l'amour et de la miséricorde de Dieu envers elle, même dans son état le plus bas, son désespoir le plus profond et sa captivité la plus douloureuse au travers de ses grandes et multiples tentations. Et mon témoignage pour elle à certains moments venant du Seigneur à ce sujet lui a parfois été utile pour soutenir son esprit, jusqu'au jour où Dieu l'a visitée et rachetée par la vertu et la puissance guérissante de son salut. De quoi béni soit son nom, elle a depuis fait une douce expérience, et a trop. Or, cette lettre d'une ancienne connaissance à moi, à laquelle j'avais répondu il y a longtemps, appartenant à Sir Henry Vane, comme elle me l'a indiqué dans sa lettre, elle désirait la voir. On dit que c'est une réponse à une lettre de moi. Si ma réponse l'avait accompagnée, je n'en aurais pas fait plus de cas. Mais elle est partie sans ma réponse, par crainte qu'elle ne nuise à ceux auxquels le Seigneur a fait ou fait du bien. Je me sens engagé en esprit à y répondre quelque peu, et à communiquer à d'autres ce que le Seigneur met en moi, en cette nouvelle occasion. Combien j'ai aimé cet homme, profondément, sincèrement et purement, je ne m'en vanterai pas, le Seigneur le sait, et sa connaissance intérieure me suffit. Mais oh, que ce papier ne lui soit pas imputé au grand jour. Ce qui, j'en ai peur, arrivera, à moins qu'il ne s'en repente, car en vérité, ce n'est pas un fruit de vie venant du Saint-Esprit de Dieu, mais une croissance d'Égypte et de Babylone. On me l'a envoyé sous forme de livre, comme s'il avait été diffusé pour un service particulier. Il n'y avait pas de nom, comme si c'était une flèche destinée à voler dans l'obscurité et à blesser en secret. Mais aucune arme forgée contre l'Israël de Dieu ne prospérera, de cette main ou d'aucune autre, et toute langue qui s'élèvera contre eux en jugement, Dieu la condamnera. Tel est l'héritage du peuple et des serviteurs méprisés du Dieu vivant en notre temps. Leur justice est la justice de son Fils qui leur est accordée, dont lui-même les a revêtus, comme l'œil oint le voit maintenant, et comme tous les yeux le verront un jour, et les langues le confesseront à la gloire de Dieu le Père. La sainte vérité et le peuple défendu, il fait exception à ces mots que je lui avais écrits dans une lettre précédente du 24 janvier, que je n'ai pas ici sous la main, à savoir, que lorsque ses yeux seraient ouverts par le Seigneur, il reconnaîtrait alors que nous ne nous opposons à aucune des vérités du Seigneur, mais que nous présentons ce que nous avons reçu de lui. À quoi il a ainsi répondu? La rédemption par le sang de Christ n'est-elle pas la vérité du Seigneur? Il accuse en particulier l'un des nôtres, et en général beaucoup d'autres, de la nier. Réponse : nous sommes rassemblés dans ce lieu et nous y demeurons, où aucune vérité ne peut être niée. Et nous sommes en celui qui conduit dans toute la vérité et qui enseigne à ne nier aucune vérité qui a jamais été manifestée par l'Esprit du Seigneur. Certains d'entre nous ne sont peut-être pas encore parvenus, par l'intelligence, au mystère du royaume que Dieu a révélé et rendu manifeste à d'autres, mais nous ne nions pas. Nous nous reconnaissons les uns les autres selon nos diverses mesures de connaissance et de discernement des choses, et selon nos divers accroissements. et nous reconnaissons et confessons devant Dieu les diverses dispensations qu'il a produites, tant avant la loi que sous la loi et les prophètes, et au temps de l'apparition du Christ en la chair. Et ensuite, lorsqu'il envoya son esprit durant tout le temps où l'Église fut au désert, et maintenant qu'elle ressort de nouveau dans l'éclat et la gloire du Père, belle comme l'aurore, pure comme le soleil, redoutable comme une armée avec ses bannières. Nous ne renions rien de ce qui est de Dieu chez les croyants de ce siècle, mais seulement ce que nous savons, et que nous sommes requis par lui de témoigner contre, comme n'étant pas de lui. Oh, si seulement il pouvait peser nos paroles et notre témoignage dans un juste esprit, car alors il ne serait pas si offensé et ne parlerait pas tant contre nous, comme ils le font maintenant. Et le Seigneur sait que nous ferions tout ce qui dépend de nous pour ôter les pierres d'achoppement qui se tiennent devant eux. Mais cela ne peut se faire pour cet esprit en eux devant lequel le Dieu Tout-Puissant a placé la pierre d'achoppement, afin qu'il trébuche, qu'il tombe, qu'il soit pris au piège, brisé et saisi. Mais s'il pouvait entrer dans un autre esprit, et sentir l'unité avec, et la naissance d'un autre esprit, la naissance de cette sagesse pure ne trouverait aucune pierre d'achoppement ni offense dans cette précieuse dispensation de vérité, par laquelle Dieu d'en haut nous a visités, et quant à nier la rédemption par le sang de Christ, oh ! Comment répondra-t-il de cette accusation devant Dieu, quand nul sur la terre, comme le Seigneur Dieu le sait, n'est aussi instruit, et ne reconnaît aussi justement et pleinement la rédemption par le sang de Christ, que le Seigneur nous a appris à le faire ? Car nous reconnaissons le sang du Seigneur Jésus-Christ, et extérieurement et intérieurement, à la fois tel qu'il a été versé sur la croix, et tel qu'il est aspergé dans nos consciences, et nous en connaissons la vertu purifiante dans l'Alliance éternelle et dans la lumière qui est éternelle. Hors de cette lumière, les hommes n'en ont qu'une notion, mais ne le connaissent ni ne le reconnaissent véritablement. Et qu'ils considèrent ceci, avant le temps de l'Antichrist, c'était une grande chose que de connaître et de reconnaître Christ extérieurement, tel qu'il est apparu dans ce corps. Mais depuis que l'esprit antichristien s'est emparé de cela, la connaissance distinctive et la reconnaissance de Christ consistent à le connaître et le reconnaître intérieurement. La connaissance et la confession extérieure aujourd'hui, en tant qu'elles sont généralement séparées de l'intérieur, et proposées comme distinctes de l'intérieur, ne sont que la connaissance et la confession de Babylone, et non la vraie connaissance vivante et la confession du Christ, en est par l'Esprit du Père, qui est la connaissance et la confession de toute la véritable Mère céleste, Mère de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Il répète ces paroles de moi, que nous ne faisons d'aucune chose finie notre justice, mais que Christ, venant de Dieu, nous ait fait justice. Cela, dit-il, est bien dit, et il souhaite que nous demeurions toujours dans cette confession. Réponse : ces paroles sont nées en moi d'un sentiment intérieur de celui qui donne la justice et de la justice donnée. Et si le Seigneur me conserve dans cette vie, je sentirai ainsi pour toujours, et je confesserai ainsi pour toujours. Et en vérité, je ne puis témoigner d'aucune autre justice, car béni soit le nom de mon Dieu, je sens la justice de son Fils se révéler en moi chaque jour, de fois en fois. En son nom j'ai été rassemblé, en son nom je vis, et en lui je sens la justice, et en effet, il n'y a en lui que justice, sainteté, vérité, vie et salut, et choses semblables. Et celui qui est véritablement en lui est juste et saint en lui, car il y a en lui une nouvelle création de tous ceux qui y sont, et un renouvellement à l'image sainte et céleste, laquelle consiste dans la justice et la sainteté de la vérité. Il me prie de donner une réponse claire à cette question, Christ venant de Dieu, nous est-il fait justice par la foi en son sang ou en son esprit ? Réponse : une foi prétendue au sang de Christ, sans foi en son esprit, n'est que morte et notionnelle. Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, dit Christ, vous n'avez point la vie en vous, c'est l'esprit qui vivifie, la chair, dit-il, ne sert de rien. Or la foi doit être en ce qui vivifie, et la foi en ce qui vivifie est sainte et juste, et l'homme qui s'y trouve est justifié par cette foi dans la puissance vivifiante devant Dieu. Ainsi Abraham fut justifié devant Dieu, et ainsi les enfants d'Abraham doivent être justifiés, à savoir par la croyance en cette puissance et cet Esprit Saint qui exige l'obéissance, justifie l'obéissant et condamne à jamais le désobéissant. Rome 4, 20-24. Il dit qu'il craint qu'il n'y ait un serpent dans cette herbe verte, lorsque je dis, de sa vie, de sa vertu et de sa puissance révélée en nous vient notre conformité à lui. Réponse : il vaudrait mieux et il serait plus sûr pour lui de craindre chez lui, car le serpent est dans sa propre herbe, et dans bien des expressions notionnelles, hautes planantes sans vraie connaissance. Mais peut-il y avoir quelque conformité à Christ sans que sa vie, sa vertu et sa puissance soient révélées intérieurement ? Qu'est-ce qui, autrement, pourrait conformer et produire en nous l'image et la ressemblance du Christ ? Il dit qu'il craint que je ne fasse de cette vie et de cette vertu notre justice, alors que ce n'en sont que les fruits. Réponse : qui est celui qui obscurcit le conseil par des paroles sans connaissance, et s'écarte de la vérité pour courir dans ses propres imaginations ? Quelle était la justice du Christ ? N'était-ce pas la vie, la vertu, l'Esprit du Père en lui, lui étant un avec elle, dans la foi en elle et dans l'obéissance à elle ? Et la justice de la tête et du corps n'est-elle pas la même, communiquée de la tête au corps? Ne sont-ils pas tous d'un seul? Et la justice n'est-elle pas une et la même en l'un et l'autre? Au temps de l'Esprit du Christ, au temps de sa justice, et hors de son esprit, hors de sa justice pour toujours. Car la justice du Fils est révélée et communiquée de foi en foi, dans son esprit. Et ainsi Christ est en effet fait justice à ceux qui se trouvent dans son esprit. Et ils sont couverts du vêtement de justice et de salut, ceux qui sont couverts de son esprit. Il dit « Notre justice est avant cela ». Réponse : Quoi, notre justice serait-elle avant que quelque vie, vertu et puissance de Christ ne soient révélées en nous ? Dieu fait-il acception de personne ? Justifie-t-il quelqu'un hors de la Sainte Alliance avant d'avoir opéré un changement en lui ? Comme cet homme, par ses vaines imaginations, renverse tout le chemin et tout le conseil de Dieu. Il apporte un passage de l'Écriture pour le prouver : l'Esprit est vie à cause de la justice. Réponse : Ce passage, qui est Romains 8:10, parle de ce en qui Christ est et demeure. Et là, en effet, le corps est mort à cause du péché, et l'esprit est vie à cause de la justice, c'est dit clairement, et c'est clairement senti et connu comme cela est dit. Oh, s'il en avait le vrai sens et la vraie intelligence, comme cela est en Jésus, il dit, la justice, dans l'ordre de la nature, est avant la sanctification. Réponse, ce qui est saint est juste, il n'y a rien de juste aux yeux du Dieu pur, sinon ce qui est saint. La tête était réellement sainte et juste, et ceux qui sont en lui participent à sa sainteté et à sa justice, et sont réellement saints et justes en lui. Et la foi qui purifie le cœur, et par laquelle vient la sanctification, doit nécessairement, dans l'ordre de la nature, précéder la justification qui vient par elle, car Dieu ne justifie aucun incroyant, mais seulement les croyants. Oui, le méchant doit abandonner sa voie, et l'homme injuste ses pensées, et se tourner vers le Seigneur, ce qui est impossible sans quelque degré de sanctification, avant que le Seigneur n'ait miséricorde et ne pardonne à l'âme ses péchés. Isaïe 55, 7, 1, 16-18. Il dit, « La justification est un acte de grâce que Dieu fait passer sur nous librement, sans égard pour nous comme pieux, ne se réfléchissant pas proprement sur nous, à cet instant comme impie. » Réponse, « Je déclare ceci devant Dieu, comme une doctrine absolument fausse et contraire à l'Évangile. Car Dieu ne justifie aucun homme en tant qu'impie. » Mais il appelle les hommes à se repentir et à se détourner de leur impiété, et il aura miséricorde d'eux, les justifiera et les sauvera. Or les hommes ne sont pas impies après s'être détournés de leur impiété, ils sont changés, et ainsi leur état est changé dans une certaine mesure avant d'être justifiés. Si Abraham était impie lorsque Dieu l'appela, pourtant, en quittant son propre pays, en suivant le Seigneur, et en offrant son fils, il fut obéissant et non impie, et c'est dans cette obéissance qu'il fut justifié. Un homme peut avoir dans l'esprit des notions sur la justification et, en conséquence, se croire justifié alors qu'il ne l'est pas. Mais nul n'est justifié par le Seigneur avant d'être changé, transféré en lui Christ en qui Dieu justifie, hors du lieu de condamnation dans le lieu de justification. Car tant que les hommes ne sont pas changés par l'esprit et la puissance du Seigneur, ils ne sont que ténèbres et dans les ténèbres où il n'y a point de justification. Ce sont les croyants, les obéissants, les enfants de la lumière qui sont justifiés par le Seigneur. Il dit, si nous étions pieux avant ou à ce moment-là, ce n'était pas un acte de grâce que de nous déclarer justes. Réponse : Celui qui témoigne du salut en Jésus-Christ témoigne que c'est un acte de grâce continue. La grâce apparaît à l'âme, la grâce enseigne, la grâce rend capable, la grâce opère un changement, faisant passer de l'absence de grâce du cœur et de l'état. Et ensuite la grâce où Dieu par sa grâce en est par Jésus-Christ, pardonne les péchés commis auparavant. Car bien que le Seigneur me visite de vie, m'en vivifie, fasse un changement dans mon cœur et dans mon état, c'est pourtant sa miséricorde que de m'accueillir et de passer, pour l'amour de son nom, sur mes dettes et mes offenses passées contre lui. Hélas! La nouvelle alliance est entièrement une alliance de grâce et de miséricorde, et le don de Christ, l'attraction de l'Esprit vers lui, l'acceptation et la justification en lui sont des œuvres de grâce et de miséricorde envers les siens. Ainsi l'Israël spirituel peut bien chanter ce cantique dans le pays de sainteté et de rédemption, louer l'Éternel. Car il est bon, et sa miséricorde demeure à toujours. Je puis, véritablement, apposer mon sceau sur ceci. Plus le Seigneur me rend saint et juste dans son Fils, plus je suis sensible à son amour, à sa grâce et à sa miséricorde en me justifiant. Et il m'est précieux de témoigner de la justification et de l'acceptation auprès de lui en et par son Fils. Il ajoute, mais c'est là la bonté, la gratuité, la munificence, les richesses de la grâce de Dieu, d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Réponse, prenez garde de détourner ce passage. Dieu a envoyé Christ pour renouveler, racheter, changer, rendre saints et justes, faire des gens tels que le Père puisse leur être favorable, les accepter et les justifier, et à mesure que Christ les rend tels, le Père les reçoit et les accepte comme tels. Mais Dieu distingue et appelle les choses comme elles sont. Il n'appelle pas un homme impie un homme saint, un homme justifié. Mais lorsqu'il l'a changé, le recréant en Jésus-Christ, le retirant de son ancienne souche et le greffant dans la nouvelle, alors il le tient pour tel et l'appelle ainsi, et non auparavant. Il vaudrait mieux que les hommes attendent Dieu pour comprendre ce que son esprit voulait dire par ce qu'il a dit, plutôt que de plaquer sur ses paroles des sens fabriqués par eux. Il tord mes paroles, m'accusant et me reprenant comme si je disais que l'amour de Dieu n'était qu'une chose nue. Réponse : ce n'étaient pas mes paroles, et mes paroles ne signifiaient pas cela, mais mes paroles étaient que ce n'est pas par un simple amour ou un amour seulement, ou un amour uniquement que Dieu rend un homme juste, ce qui est très vrai et manifeste, car outre son amour en est par cet amour, il y a l'envoi de son Fils et la révélation de son Fils, l'attraction vers son Fils et la transplantation en son Fils, pour rendre saint et juste en lui. Car la sainteté, bien qu'on puisse la distinguer, ne peut être séparée de la justice, et nul ne peut être juste aux yeux de Dieu, à moins d'être aussi, dans une certaine mesure, saint. Quant à ces paroles, réflexives là-dessus, je les passe, bien qu'elles me soient adressées très injustement et de manière peu chrétienne, sans qu'aucune parole n'ait pu lui en donner juste occasion. Je demande au Seigneur de l'en rendre sensible, afin qu'il en soit pardonné. Il me reproche d'avoir dit « Nous ne faisons d'aucune chose finie notre justice », et pourtant il dit « Nous faisons de la mesure de l'Esprit, que chaque membre de Christ reçoit notre justice ». Réponse : une mesure à la même nature que la plénitude. Une mesure de l'Esprit et de la vie, de la grâce et de la vérité qui vient de Jésus-Christ, à la même nature que la plénitude. Toute la vie, toute la nouvelle création qui vient de lui et demeure en lui est juste, et elle est trouvée juste partout où elle se trouve. Pourtant, je ne me souviens pas que nous l'ayons ainsi exprimé, à savoir que cette mesure est notre justice. Mais c'est lui, la plénitude, qui est révélée dans cette mesure, et c'est lui qui est notre justice, notre sagesse, notre sanctification, notre rédemption. Mais c'est dans la mesure sainte et pure du don céleste qu'il nous est ainsi fait de Dieu, et non hors d'elle. Il dit « Le Seigneur notre justice nous rachète, non proprement par la vie et l'esprit de sa divinité, quoique celle-ci fût dans l'œuvre, le soutenant, le rendant capable et le portant dans cette grande entreprise, mais par la mort et les souffrances de son humanité. » Réponse : c'est une doctrine étrange que de faire de l'humanité le principal rédempteur, et de la vie et de l'esprit de la divinité seulement le soutien et le porteur de l'homme dans l'œuvre de rédemption. Alors qu'en réalité c'est la parole qui a tout créé, qui a aussi racheté. Celui qui a quitté sa gloire, s'est dépouillé de toute réputation et a pris la forme de serviteur pour faire la volonté. C'est l'Esprit et la vie du Père, à savoir le Fils éternel, qui a pris ce corps, est apparu dans ce corps, l'a offert au Père en sacrifice pur et acceptable, achevant en lui l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire. John 17, 4-5. Il dit « Devons-nous penser satisfaire à la loi par notre obéissance ?» Réponse : nous ne regardons pas la loi de Moïse, qui fut donnée aux Juifs extérieurs, comme la dispensation de la Nouvelle Alliance, ni comme la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Mais ceux qui sont dans la Nouvelle Alliance, et qui ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur, et sa crainte mise là qui les préserve de s'éloigner de lui, et son esprit mis en eux pour les faire marcher dans ses voies, garder ses statuts et ses jugements et les pratiquer, et qui vivent par l'Esprit, ne marchent pas selon la chair mais selon l'Esprit en cela, la juste. Pourtant, ils n'exaltent pas et ne crient pas leur propre obéissance, ni ne l'appellent leur justice, mais celui de qui vient leur obéissance. Car dans la mesure de sa grâce et de sa vérité vivante, l'âme est une avec lui, et tout ce qu'il est, et tout ce qu'il a fait, est à eux, et c'est lui-même qui est la justice de tous ceux qui sont en lui, et ceux qui demeurent en lui participent à sa justice de jour en jour, laquelle s'écoule sur eux comme un fleuve. Ils sont justes, parce qu'ils gouvernent leurs paroles et leurs actions de sorte qu'ils marchent dans l'obéissance à la loi qu'il a écrite dans leur cœur et leurs esprits, et sont ainsi justes dans leurs paroles et leurs actes. Mais ce n'est pas leur œuvre, ce sont les effets du revêtement de sa nature, de la nouvelle créature, avec tout l'ancien mort. Je voudrais qu'il considère dans quel esprit il appelle la pierre blanche un billet pour la justice. Connaît-il la pierre blanche avec le nouveau nom ? Ce n'est rien de moins que la pierre de fondation, que la justice elle-même. Et pourquoi parle-t-il de la porter comme d'un billet pour la justice ? Il semble passer sur certaines choses que je lui dis avec amour tendre et gravité d'esprit, comme étant le jugement de l'homme en son temps. Mais qu'il prenne garde, lorsqu'il paraîtra devant Dieu, il trouvera alors que c'était le jugement de l'Esprit de Dieu dans la lumière de son jour, jour intérieur et spirituel, vers lequel les croyants doivent se hâter, et qui s'approche dans chaque cœur, à mesure que la nuit s'y passe. Et tous les vrais chrétiens et croyants doivent attendre le passage de la nuit, l'aube de ce jour, et le lever de l'étoile du matin dans leur cœur. Il dit « Christ est maintenant prêt à être révélé ». Réponse : je crois qu'il doit être révélé davantage, et dans une gloire plus pleine. Mais il est véritablement déjà révélé comme le Sauveur, le Berger et le Surveillant de l'âme. Et beaucoup sont rassemblés chez eux, dans leur lieu de repos en lui, qu'ils ne pouvaient trouver lorsqu'ils étaient dispersés çà et là sur les montagnes stériles avant que le berger n'apparaisse et ne se manifeste. Ils semblent s'attaquer à la paix et à la joie qui viennent de Dieu, et y porter un coup, parce que des esprits éloignés des illuminations et des convictions de Dieu ont beaucoup de paix dans leur voix, et que ceux-là sont sous des illusions. Réponse : Nous ne parlons pas aux hommes de la paix et de la joie que nous avons en notre Dieu en nous vantant, mais d'une manière fidèle de témoignage et d'invitation à ce qui nous a autrefois manqué et que nous avons maintenant trouvé sous la conduite du vrai berger. Et la paix et la joie qu'il donne sont une preuve et une assurance dans les cœurs de ceux à qui les donne. Et ceux qui ont été grandement affligés par manque du Seigneur et de son bras puissant de salut, l'ayant rencontré, voient en eux la vie se lever pour témoigner et dire à d'autres : Voici, c'est notre Dieu, nous l'avons attendu, et nous serons dans l'allégresse et nous nous réjouirons de son salut. Et oh, si vous étiez aussi dépouillés de cette connaissance morte, notionnelle et englobante concernant le Sauveur. Afin que vous rencontriez le Sauveur lui-même et receviez de lui cette connaissance qui est la vie éternelle. Et cela, avec la vraie paix et la joie qui en viennent de lui, vous ne le trouverez pas illusoire. Il parle de subir une perte, et de phrases et expressions, « Mieux vaut, dit-il, subir une perte en ces choses que d'être même détruit. » Réponse, qu'il s'applique cela à lui-même. Oh, s'il voyait combien ces phrases et expressions, et cette connaissance imaginaire qu'il a produite dans cette lettre, se dressent sur son chemin pour entraver la vraie connaissance, et qu'il ne peut absolument pas recevoir la vraie connaissance sans être vidé de ses choses et sans s'en séparer, pour l'excellence de la connaissance de la vérité telle qu'elle est en Jésus, et sans la vraie connaissance de Jésus, les hommes ne peuvent que périr et être atteints par la destruction. Puis pour être utile à affermir les personnes dans la grâce, réponse, de telles doctrines ne tendent pas à cela. Elles peuvent affermir les hommes dans une notion de la grâce telle qu'il l'a formée, mais elles ne tentent ni à conduire à la grâce elle-même, ni à y affermir, elles en éloignent plutôt les hommes. Non, je puis véritablement dire, de la part de celui qui est vrai, que lui-même ne peut recevoir la grâce, la chose elle-même, tant qu'il ne se départ pas de ses notions. Et oh, qu'il puisse connaître la pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main, pour briser son image. Afin que le vivant, qui donne la vie, soit reçu par lui, dans cette mesure de grâce et de vérité qu'il dispense intérieurement à tous ceux qui sortent des ténèbres de leur propre imagination et conception sur les Écritures, pour entrer dans sa lumière pure. La principale raison qu'il donne de n'être pas satisfait de ce que je lui ai envoyé concernant la somme et la substance de la vraie religion est que cela combat ses notions, même l'établissement de notre justice auprès de Dieu selon son imagination, ce qui n'est absolument qu'un pur rêve qu'il a fait pendant la nuit et qu'il n'a pas vu dans la lumière du jour. Car le cri de l'Esprit du Seigneur retentit au jour de l'Évangile : Ouvrez les portes, afin que la nation juste qui garde la vérité entre. Voilà la vérité, telle que Dieu l'a révélée par son propre esprit en notre temps. Mais dire que cela parle de notre état en lui, sans en rendre témoignage en nous-mêmes, n'est qu'un simple rêve, et les hommes ne peuvent porter du fruit à Dieu, ni être aimables et agréables à ses yeux, que lorsque leur jachère est labourée, que les épines, les chardons, les ronces, et tout ce qui est impur et non saint sont ôtés. Christ, dit-il, est l'homme céleste et la demeure en qui nous sommes ainsi bénis, et en qui nous nous asseyons dans un état de repos et de réconciliation, céleste et divin, avant et sans la considération d'aucune œuvre de justice que nous aurions accomplie, etc. Réponse : S'il entend cela au sujet du plein établissement dans le repos, c'est directement contraire à l'Écriture. Car nul ne est s'asside dans ce plein repos avant et sans considération des œuvres de justice faites par lui. Car ce grand jugement est un temps où l'on rend à chacun selon ses œuvres. Le repos est la récompense du voyageur, et ses voyages ne sont pas méprisés, mais pris en compte dans sa récompense. Remarquez, chacun de ceux qui a fait fructifier le talent a reçu une récompense de son Seigneur. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous a été préparé, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, etc. Matthieu 25. Et l'apôtre est du même avis que Christ lorsqu'il dit, « Il est juste de la part de Dieu de rendre la tribulation à ceux qui vous troublent, et à vous le repos, etc. » 2 Thessaloniciens 6:7. Ainsi, les personnes ne s'assoient pas dans la béatitude éternelle en Christ avant ou sans considération d'aucune œuvre accomplie par elles. Et quant à s'asseoir ici en lui dans un état céleste, divin de justice, de repos et de paix, c'est un état glorieux vers lequel il faut voyager. Il faut d'abord être transféré du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils bien-aimé. Le royaume doit d'abord être venu, et l'âme préparée à y entrer, par la porte que l'Esprit lui ouvre sur la voie de l'Évangile. Car c'est une chose de connaître quelque chose de Christ et de commencer à devenir disciple, et c'en est une autre d'apprendre de lui à renoncer si bien à la sagesse et à la volonté propre de l'homme, qu'on en vienne à recevoir et à naître de ce qui est vrai et vivant de lui, et d'apprendre à attendre correctement l'ouverture de la porte et l'entrée dans le royaume et le pays de la vie, et à être préparé pour s'asseoir avec lui. car il y a un état de discipula dans lequel un homme connaît à peine un établissement, ne serait-ce que pour savoir veiller avec Christ, justement et constamment. Mais c'est une grande chose que de pouvoir demeurer et rester avec lui Christ. Nul ne le peut, sinon celui qui peut demeurer avec un feu dévorant et des brûlures éternelles, car la parole pure de vie est un feu, et celui qui est assis dans le lieu céleste en lui doit s'asseoir dans ce feu. Il tient cela pour l'état ferme et stable, qui en vérité n'est aucun état. Il n'y a pas d'état en Christ sans être en Christ, et alors l'état est selon l'être de l'âme en Christ. Car alors l'œuvre de régénération, l'œuvre de sanctification, l'œuvre de justification, etc., se poursuit, et un homme est avec Dieu selon qu'il est formé et nouvellement créé en Christ, et non autrement. Ainsi la vie et la puissance du Seigneur Jésus-Christ se trouvent jugées et condamnées tout ce qui n'est pas de Dieu, et ne justifiées que ce qui est de Dieu en lui. Car l'âme entre alors dans la nouvelle alliance, qui requiert et justifie ce qui est nouveau, tout ce qui est opéré en Dieu, et condamne tout ce qui est opéré hors de lui. Et ainsi voici le vrai sens et la vraie connaissance du péché, par la loi nouvelle et pure de la nouvelle alliance, et l'avocat est connu, et la repentance est donnée par lui en toute occasion à ceux qui l'attendent, et l'aspersion du sang, et la rémission sur la repentance. Voilà la voie nouvelle et vivante du Seigneur Jésus-Christ, qu'il a consacré pour tous les siens, rendu manifeste dans la démonstration de son esprit, et qui subsistera jamais. Alors qu'en fait les conceptions des hommes sur ces choses, qu'ils ont recueillies et comprises d'eux-mêmes à partir des Écritures, dans la prétendue lumière de leur raison et de leur intelligence naturelle, ne sont que des rêves, et s'évanouiront même dans leur propre cœur, si jamais la vraie lumière s'y lève. Il dit « Cet état ne peut jamais tomber, ni en tomber finalement ». Réponse : il y a une manière de venir à Christ, et il y a une manière d'être préservé en Christ, car il y a une puissance qui rachète, et les hommes sont préservés par cette puissance dans la soumission à elle. Et ainsi que celui qui pense être debout craigne et prenne garde de tomber, et qu'il ne se vante pas en disant « Je suis dans un état de justification, ferme et inébranlable, et il ne peut tomber ni en être finalement déchu ». Car vous êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi pour le salut, tenez-vous à la puissance qui préserve, retenez ce que vous avez, afin que personne ne prenne votre couronne, gardez la foi, ne faites pas naufrage de la foi et d'une bonne conscience. Aussi les hommes connaissaient la juste doctrine et la juste voie de venir à Christ. Ce qu'ils ne peuvent, jusqu'à ce qu'ils soient enseignés du Père, John 6, 45, est la juste doctrine et la juste manière de se tenir et de demeurer en lui. Car en vérité, la prétendue venue à Christ, la croyance et la station des hommes aujourd'hui sont généralement notionnelles, extérieures, au dehors, mais non dans la vie et la puissance intérieures elles-mêmes, sans lesquelles nul ne peut venir à lui, ni se tenir ni demeurer en lui. Il nous accuse d'établir une alliance des œuvres, toujours faire et jamais fait, une alliance à accomplir par nous, pour nous-mêmes, et non par Christ pour nous. Réponse : je voudrais qu'il voie dans la vraie lumière combien cette accusation est injuste et fausse. Car le Seigneur Dieu de vie sait que c'est lui-même qui nous a enseigné la nouvelle alliance, et qu'il nous a ainsi appris à attendre lui-même en son Fils pour accomplir en nous et pour nous toutes nos œuvres, et nous faisons chaque jour l'expérience que nous ne pouvons rien faire, sinon comme il opère en nous. Ainsi tout notre cours est d'attendre en lui dans le silence, pour le voir apparaître et tout faire en nous, et béni soit son nom, nous n'attendons pas en vain. Mais s'il pense que toutes les œuvres sont exclues de la nouvelle alliance, il se trompe grandement. Car les œuvres de l'Esprit de Dieu y sont requises et y ont leur place. Et Dieu est Christ, le roi et le berger est le juge de son peuple dans la nouvelle alliance, et il justifie ou condamne selon la loi de celle-ci. Dans la foi et l'obéissance, il justifie, dans l'incrédulité et la désobéissance, il condamne, sans acception de personne. Et c'est une chose précieuse, dans le ministère de l'Évangile, que de venir à Dieu, le juge de tous, et de voir s'établir un vrai jugement de Dieu dans le cœur même d'un homme. Afin que par le ministère de ce jugement pur au-dedans, l'âme apprenne la justice du Saint Maître et Berger, à savoir le Seigneur Jésus-Christ, qui est juste et fidèle sous son Père, dans l'administration impartiale de la Nouvelle Alliance. Là-dessus, il porte contre nous plusieurs accusations, par ses propres erreurs et méprises à notre sujet, comme, premièrement, que notre doctrine implique le libre arbitre et la puissance dans la créature. Réponse : nous n'avons jamais éprouvé le libre arbitre ni la puissance comme venant de nous-mêmes, mais seulement lorsque nous avons été tournés vers la puissance de Dieu et que nous l'avons reçue de lui. Et nous n'avons jamais témoigné aux autres qu'ils pouvaient recevoir et embrasser la vérité par leur propre volonté et par leur propre puissance. Oh, si cette personne avait un vrai discernement et était séparée de cet esprit qui nous accuse ainsi. Car quiconque reçoit ce témoignage concernant la lumière intérieure de notre Seigneur Jésus-Christ ne se trouvera jamais capable d'y faire quoi que ce soit par sa propre volonté et sa propre puissance, mais il y verra Dieu l'engendrer hors de sa propre volonté, par la vie et la puissance de la vérité. Deuxièmement, il l'accuse de rendre l'élection de Dieu entièrement inutile. Réponse : l'élection de la semence, dans la semence, ne la rend nullement inutile, mais les fausses conceptions des hommes au sujet d'une élection hors de la semence ne s'accordent pas avec la véritable doctrine de l'élection. Il nous a choisis en lui. De sorte que c'est en lui, à savoir en Christ, que se trouve le choix, et celui qui veut rendre son élection certaine doit rendre la semence certaine pour lui, croissant dans sa nature, par laquelle l'élection est pour ceux qui obéissent véritablement. Il a dit : notre justice auprès de Dieu est le fondement. Réponse : mais n'y a-t-il pas quelque chose qui soit le fondement de notre justice auprès de Dieu ? Et pouvons-nous être justes auprès de Dieu, jusqu'à ce que nous venions à ce fondement et que nous soyons rendus justes par lui ? Ne devons-nous pas d'abord croire en lui ? Et la foi n'est-elle pas un don qui vient de la sainte racine, et opère un changement en ceux en qui ce don se trouve ? La foi ne fait-elle pas une différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas ? Ainsi, dès qu'il y a une vraie foi, et qu'elle agit ainsi, l'état est changé, et il n'y a pas de justification avant la foi. Car dans l'incrédulité est la condamnation pour toujours, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Et quoi, est-il justifié là aussi en même temps ? Abraham, notre père, a-t-il été justifié dans l'incrédulité et la désobéissance, ou en croyant et en obéissant à Dieu ? Car qu'a dit l'Écriture ? Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Ce dont j'ai parlé, a-t-il dit, n'est que le fruit et la superstructure. Réponse : quand Christ dirige les hommes vers la semence du royaume, les dirige-t-il vers le fruit et la superstructure ? J'ai parlé là de la semence de la lumière, du Saint-Esprit, de la vertu vivifiante, est-ce là la superstructure, ou est-ce le fruit du fait que les hommes ont été rendus justes ? Non, ne doivent-ils pas se tourner vers cela, recevoir cela, croire en cela, même en la lumière de l'Esprit de Dieu, car ce sont les vrais et justes croyants, avant qu'un homme puisse en venir à être rendu juste, ou tenu pour juste aux yeux du Seigneur, car nul n'est juste sinon en lui, et tous sont hors de lui, jusqu'à ce qu'ils soient rassemblés en lui. Il prend appui sur un passage de moi, dans un livre intitulé « La somme ou substance de notre religion », nous qu'on appelle « Quakers » et les mots sont ceci. Voici la somme de tout, savoir et expérimenter ce qui doit être abaissé dans la mort et tenu dans la mort, ce qui doit être relevé hors de la tombe pour vivre pour Dieu et régner dans sa domination, et ce qui doit être tenu dans la soumission et l'obéissance à celui qui doit régner. Or, éprouver cela ainsi accompli dans le cœur, la chair abaissée, la semence de vie relevée, et l'âme soumise à la puissance pure et céleste, à qui il appartient de régner dans le cœur, en est par la semence, c'est en vérité un état bienheureux, car ici l'œuvre est faite. Tels furent mes mots. Or, prenez-y garde, Dieu est le maître dans la nouvelle alliance. Or, celui qui a appris cela de lui, n'a-t-il pas appris la vraie religion ? Et n'est-ce pas une pleine somme et substance de la religion ? Quand l'apôtre a dit, « La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins, etc. » Hélas ! Cet esprit aurait-il pu dire contre le bienheureux apôtre, ce n'est pas la religion pure, ce n'en est pas la somme ou substance, ce n'est qu'un fruit ou une superstructure, oh si les hommes avaient un vrai sens et une vraie intelligence. Afin qu'ils puissent discerner le goût des paroles qui viennent de l'Esprit de Dieu et de celles qui viennent de leur propre esprit, et qu'ils ne s'offensent pas de ce qui est vrai, pur et vivant de lui. Mais ayant désapprouvé cette somme, il en donne une des siennes, en ces mots qui suivent, je dis que la somme, et ce qu'il importe d'abord et principalement que nous sachions, comme le Seigneur me l'a enseigné, c'est ceci, que le vieil homme est crucifié avec Christ et abaissé dans son tombeau, et que nous sommes ressuscités avec lui par la foi de l'opération de Dieu, et à partir de cette foi, travailler avec Dieu, mortifier nos membres qui sont sur la terre. Astérisque, c'est un christianisme de faux-semblants. Il lit ce que d'autres ont réellement éprouvé, être crucifiés, et présume que nous devons aussi être crucifiés, ressuscités, assis dans les lieux célestes avec Christ, être parfaits, être saints, être justes, à partir de la parole du Seigneur au-dedans. Tous sont des rêveurs, souillés, car ils demeurent dans le péché, et rêvent d'être en Christ, justes, saints, sauvés, etc. Réponse : Christ n'envoie-t-il pas ses apôtres prêcher l'Évangile et leur donne-t-il ce message ? Dieu est lumière, et de tourner les esprits vers la vraie lumière ? Afin qu'ils soient éclairés par elle, n'importe-t-il pas d'abord aux hommes de connaître ce par quoi ils peuvent être crucifiés, avant de pouvoir se connaître crucifiés par là ? Ainsi Christ a jugé que c'était la première chose nécessaire à connaître dans la prédication de l'Évangile, et il a commandé aux hommes de prêcher la lumière, de tourner les hommes vers la lumière, et vers l'apparition intérieure et la voix de la parole de Dieu dans leur cœur. Et quoi, les hommes sont-ils ressuscités avec lui, par la foi de l'opération de Dieu, tandis qu'ils sont encore dans leur péché, dans leur état impie ? Et comment quelqu'un peut-il témoigner de la foi de l'opération de Dieu dans cet état ? Or, il eût mieux valu qu'il s'abstînt d'affirmer que le Seigneur le lui avait enseigné, car en vérité, le Seigneur n'a jamais enseigné cela à personne. ce n'est pas une vérité venant de Dieu, ni le Seigneur ne la reconnaîtra comme sa vérité, quand il viendra comparaître devant lui, et il aurait dû se l'attribuer à lui-même, et ne pas y mettre le nom du Seigneur. Mais contre cette doctrine qui est la sienne, il soulève une objection en ces termes : devons-nous mortifier ce qui est déjà mortifié ? Sa réponse est : le vieil homme qui est crucifié avec Christ est l'état de la chair et de l'inimitié. Cela est passé, et c'est là proprement l'enjeu de notre justice et de notre justification. Ce qui reste à mortifier, ce sont nos membres sur la terre, qui sont les fruits de cet état mauvais, et dans la mortification de ceux-ci réside l'enjeu de notre sanctification. La volonté de Dieu est faite au ciel, etc. Réponse : Paul parle de la loi du péché dans ses membres, et il parle aussi du corps de mort, et s'écrie contre cela : misérable homme que je suis, disait-il, qui me délivrera du corps de cette mort. Il sentait quelque chose qui nourrissait et donnait de la force à la loi du péché dans ses membres, et se regardait comme misérable, jusqu'à ce qu'il pût rencontrer la délivrance. Or, quelques-uns sont d'avis qu'on ne peut être délivré du corps du péché tant qu'on est dans cette vie. Regardez-vous que cela soit fait en Christ pour nous, sans nous, mais jamais fait par Christ en nous. Je vous dis que, si jamais vous en venez à témoigner de la pure et éternelle lumière du Seigneur Jésus-Christ révélée en vous, elle ne se contentera pas de découvrir quelques membres sur la terre, mais le corps même, et elle vous montrera la nécessité d'ôter ce corps de vous, et la circoncision par laquelle cela doit être fait, qui est la circoncision de Christ. Remarquez la promesse de la nouvelle alliance : je circoncirai ton cœur et le cœur de ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, afin que tu vives. N'est-ce pas là la circoncision de Christ ? Cela ne retranche-t-il pas le corps des péchés de la chair, là où cela est attesté en particulier ? Voilà la vérité, telle qu'elle est en Jésus : dépouillez le vieil homme avec ses œuvres. Il n'est pas dit que le corps soit dépouillé en Christ sans nous, et que les hommes n'aient qu'à dépouiller les membres ou les œuvres, mais ils doivent dépouiller le corps, et en venir à témoigner en eux-mêmes que la nature même, l'esprit, la racine et le principe d'où ils procèdent soient abattus et détruits en eux. Ils doivent sentir la hache mise à la racine de l'arbre corrompu, et l'arbre abattu en eux. Ne pensez pas que cela soit fait en Christ pour eux, oui, ils doivent aussi témoigner que le Seigneur se lève pour ébranler terriblement la terre dans laquelle l'arbre a poussé, afin que le lieu des dragons et des serpents où chacun gisait autrefois devienne désormais un lieu de sainteté, où l'herbe puisse croître, et les nouvelles plantes et fleurs du paradis de Dieu. Et comment la volonté de Dieu est-elle faite au ciel ? Est-elle faite au ciel de cette manière ? La miséricorde et la justice ont-elles la prééminence ? Prennent-elles la tête du cortège ? Ce sont ses propres mots, et dit-il qu'elles vont devant, et regardent du haut du ciel de cette manière, le corps du péché y étant dépouillé en Christ. N'y a-t-il pas ici sur la terre des gens qui demeurent au ciel, dont la conversation est dans les cieux, à savoir les témoins de la sainte vérité de Dieu, qui sont montés au-dessus de l'esprit de ce monde et demeurent dans le Saint-Esprit de Dieu, et qui marchent dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière ? L'enfer n'est pas loin du méchant, et le ciel n'est pas loin de ceux qui sont renouvelés dans l'esprit de leur intelligence, et qui témoignent de la disparition des choses anciennes et de la nouvelle création en Christ. Oh, s'il pouvait regarder en arrière, dans un vrai sens, et voir comme il a tordu ses Écritures. PS 85, 9, 11 et 4, 2 et Hébreux 2, 6 selon ses propres imaginations, et en vérité dans cet esprit, les hommes ne peuvent que changer la précieuse vérité de Dieu en mensonge, c'est-à-dire, quant à eux-mêmes, quant à leur propre connaissance d'elle. Il est connu combien le rameau du Seigneur est beau et glorieux, et le fruit de la terre excellent et agréable, et en quel jour il en est ainsi ? Jour qui est, quand le Seigneur aura lavé la souillure de la fille de Sion, et aura purgé le sang, par l'esprit de jugement et par l'esprit de brûlure. Et 4:4. Alors tous ceux qui resteront seront appelés saints, et le rameau du Seigneur sera glorieux au milieu d'eux, et les fruits de la terre excellents et agréables pour eux. Et alors ceux qui sont ainsi purgés s'assieront avec Christ dans les lieux célestes, une entrée abondante leur étant accordée dans le royaume éternel. 2 Pie 1:11. Troisièmement, il l'accuse de rendre superflu l'obéissance et les souffrances de Christ, sauf seulement comme modèle. Réponse : Christ est venu faire la volonté du Père, obéir, souffrir, goûter la mort pour chaque homme, combattre le diable et le vaincre, offrir un sacrifice saint et sans tache pour toute l'humanité, afin que par lui il puisse témoigner de l'expiation et de l'acceptation. Et le Seigneur en a vu l'utilité, et nous en témoignons l'utilité, et trouvons chaque chose à sa place propre et à son service en lui, qui est en nous et pour nous l'alliance de vie et de paix de Dieu. Mais l'œuvre de ce jour n'est pas de prêcher une connaissance notionnelle de ces choses, le monde chrétien, comme on l'appelle, s'y est noyé et est mort depuis assez longtemps, mais de conduire à cette mesure de l'esprit, à ce sens de grâce et de vérité qui est venu par Jésus-Christ, par lequel le bénéfice de ces choses est véritablement recueilli et goûté, et en vérité c'est là l'œuvre qui nous a été confiée par le Seigneur, qui nous a donné ce témoignage à porter, quoi que les hommes pensent ou disent de nous. et là où il parle de notre manière de nous saisir de passage, dans ses sermons imprimés, pour favoriser notre cause. Réponse. C'est là son erreur à mon sujet, c'était pour son bien que je l'ai mentionné. Il y avait en effet à ce moment-là quelque chose qui s'agitait en lui, qui l'aurait rassemblé, s'il en avait connu et obéi la voix, au lieu de s'élancer dans de hautes notions à son sujet. Il avait alors quelque sentiment d'une gloire qui approchait, qu'il aurait pu recevoir du vrai prophète, bien qu'alors même il s'échappât dans ses imaginations à ce sujet, et ne l'appréhenda pas justement, ni ne sut comment et quand cela apparaissait. Il a encore des accusations contre nous, d'exalter les œuvres contre l'ouvrier, la grâce et la justice de l'homme contre celle de Dieu, la conformité à Christ contre Christ, oui, de faire un Christ de notre justice, un sauveur de notre conformité. Réponse. Oh, que fera cet homme quand le Seigneur lui montrera qu'il n'a pas tant accusé nous, que l'Esprit et la puissance, et la précieuse apparition du Seigneur Jésus-Christ, de ces choses, nous exaltions les œuvres seulement selon ce que Dieu nous enseigne, et comme les apôtres et les prophètes les ont exaltées. La foi est nécessaire, et les œuvres sont nécessaires, chacune à sa place, et la justification de chacune les suit. Et celui qui reçoit l'Esprit du Fils et y pratique la justice est tenu par Dieu pour juste en cela même, comme le Fils est juste. 1 Jean 3, 7. Dieu nous justifie en son Fils, et il aime aussi en cela sa sainte semence, et la foi qui vient de lui, et toutes les œuvres qui sont opérées en lui, et hors de cette sainte racine de vie et de puissance, nul homme, ni sa foi, ni ses œuvres ne sont justifiés. Puis pour ce qui est de la grâce et de la justice de l'homme, où nous entend-il parler de la grâce de l'homme? Que veut-il dire? Va-t-il déformer la cause de son prochain ou de son frère pour la rendre mauvaise? Et pour la justice de l'homme, nous ne l'exaltons pas et ne nous en revêtons pas, mais nous témoignons que les hommes doivent en être dépouillés, et nous-mêmes étions disposés à nous en séparer et à l'ôter, avant de pouvoir être revêtus de la justice de Dieu. Mais les œuvres de vie, les œuvres de l'Esprit de Dieu, les œuvres de la nouvelle créature, les œuvres de la nouvelle alliance, celles-ci ne sont pas des œuvres de l'homme, ni des œuvres injustes condamnées par Dieu, mais elles sont justifiées en et par celui qui les opère. Les œuvres opérées en nous sont vraiment agréables, et nous le sommes en lui qui les opère, lui qui est notre justice. Et concernant ce peuple, ces enfants de la nouvelle alliance, que le Seigneur a engendré et fait naître en notre temps, cette écriture s'accomplit en eux et sur eux, leur justice vient de moi, dit l'Éternel. Est 54, 17. Eh bien, tant que le Seigneur a dit ainsi, peu nous importe que d'autres disent que notre justice vient de nous-mêmes, et que c'est notre propre justice, étant assuré que le témoignage de Dieu dans nos cœurs quant à cette chose demeurera. Il aggrave cette accusation ainsi, et cela doit être fait par ceux qui ont été à ce point éclairés, et qui tiennent toute la religion et toute la profession du monde au-dessous d'eux comme charnels. Réponse. En effet, nous magnifions la vérité, la vie, l'onction, le spirituel, l'apparition intérieure de notre Seigneur Jésus-Christ, vers laquelle nous avons été tournés, et en laquelle nous avons été rendus spirituels, et toute autre connaissance, foi, profession, religion, qui n'y prend pas sa source, nous ne pouvons que l'appeler charnelle. Car l'Esprit éclairant du Seigneur nous a donné ce témoignage à porter, contre tous les croyants morts et notionnels de cet âge, qui baptisent à partir de la lettre ou plutôt de leur appréhension de la lettre, hors de la vie, lesquels tous exaltent des noms de fondement et de pierre angulaire, mais refusent, rejettent, nient et se détournent de la pierre angulaire elle-même, et n'ont ni l'habileté ni la patience d'éprouver ce qu'il est, dans cette apparition pure, précieuse, vivante, puissante et glorieuse dans la lumière spirituelle de son jour intérieur. Et malheur à nous si nous ne rendions pas ce témoignage, car c'est pour cette cause que nous sommes nés et avons été amenés dans le monde, pour témoigner de l'apparition présente de notre Dieu et de son Christ en notre jour. Gloire à celui qui nous a appelés et choisis pour cela, et qui, dans une mesure et un degré vrai et précieux de sa propre vie pure, nous y a rendus fidèles. Cela, dit-il, est si loin de nous donner un élan plus près du ciel, que je ne puis plus proprement le comparer qu'à la sortie d'Amalek, qui rencontra Israël en chemin quand ils furent sortis d'Égypte, et frappa les derniers d'entre eux, etc. Réponse. Ne parlez pas d'avoir un élan plus près du ciel. Apprenez le chemin saint, le chemin vivant, par lequel aucune chose morte ou impure ne peut marcher. Apprenez à connaître l'Esprit de Dieu en vous-même, par ce qui s'oppose à son esprit. Vous avez longtemps appris selon vos anciennes conceptions et appréhensions de la lettre. Venez enfin apprendre la vérité telle qu'elle est en Jésus, qui découvre le péché et la mort, et leur corps, qui crucifie et dépouille, et fait place dans le cœur à celui qui est vrai et pur. Et quant à Amalek frappant Israël, oh combien vous vous trompez! Vous vous prenez pour Israël, et nous pour Amalek, alors qu'en vérité si vos yeux étaient loin, vous verriez que nous avons été engendrés et nés de l'Esprit de Dieu par la parole de vie qui était dès le commencement, par laquelle nous avons été circoncis d'une circoncision faite sans main, afin que nous puissions adorer Dieu dans son propre esprit pur et dans sa vérité vivante, et que notre Dieu nous est apparu intérieurement, et nous a conduits hors du pays d'Égypte, et hors de Babylone aussi, et de tous les pays où nous avons été dispersés. De sorte que nous pouvons reprendre la plainte du prophète en ce jour, qui a cru à notre rapport, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé. Car bien que nous disions ce que nous avons entendu, vu et senti de la vie qui est éternelle, et de la parole qui était au commencement, pourtant vous êtes si éloignés du témoignage de Dieu dans vos propres cœurs, que vous ne pouvez recevoir notre témoignage, mais vous y opposez votre connaissance morte, sèche, notionnelle, suffisante, imaginaire, qui ne vous servira de rien quand vous viendrez à comparaître devant Dieu. Puis il poursuit, se plaignant de nous ainsi, « Ah, monsieur, au lieu de nous donner une tape dans le dos et de nous assister dans notre voyage, vous alourdissez notre marche et tombez sur notre arrière-garde. Au lieu de servir le royaume de Christ, dont l'Église est maintenant en travail, vous niez les premiers principes de l'Évangile et vous reniez entièrement l'espérance de la seconde apparition et du royaume de Christ, ne connaissant ni ne reconnaissant, comme aucun autre sauveur, de même aucun autre royaume, qu'un principe ou une lumière en vous-même. » Réponse : Dieu est lumière, et il n'y a en lui aucune ténèbre, et c'est là le message de l'Évangile. 1 Jean 1:5 « Et Christ, qui est un avec le Père, est une seule et même lumière avec lui, et nous confessons que nous n'en attendons pas d'autre que lui, ni un autre royaume que le royaume qui est révélé en lui, car le royaume qui est révélé et manifesté en est par lui est le royaume spirituel, éternel, perpétuel, et il n'en est point d'autre. Nous ne disons pas que la plénitude, ou la pleine gloire du royaume, soit maintenant révélée ou jouie, non, nous confessons que nous n'en avons que les arts, en comparaison, une mesure, une proportion, mais c'est de même nature et de même espèce que la plénitude elle-même. Et tout ce qui est de Christ, de son esprit, de sa nature, est salutaire, la moindre mesure de sa grâce qui apparaît dans un cœur apporte avec elle le salut, le moindre toucher de son doigt contient une vie pure et une vertu salutaire, pourtant cela n'est pas distinct ni séparé de la plénitude, et ainsi ce n'est pas un autre, bien que ce ne soit pas la plénitude. Mais là où vous vous plaignez que nous ne vous assistons pas dans votre voyage, mais l'entravons, oh, si vous saviez ce qu'est votre voyage, et vers où vous marchez et cheminez dans l'esprit présent par lequel vous agissez. Nous reconnaissons que c'est une grande amour et miséricorde de Dieu envers nous, de nous avoir délivrés de cet esprit, et de cette voie de connaissance, de religion et de culte dans laquelle vous demeurez encore. Et ce que nous avons vu et connu du Seigneur, il nous est requis par lui de vous en rendre témoignage. Et si vos yeux étaient ouverts par le principe de lumière venant de lui, dans la sainte onction, vous vous inclineriez devant le témoignage. Mais en jugeant dans une sagesse un esprit contraire, non seulement vous vous en détournez, mais vous le combattez, et vous nous injuriez et nous calomniez pour notre fidélité envers le Seigneur et notre bienveillance à votre égard, que le Seigneur vous en rende sensible et vous pardonne, afin qu'en. Et quant à nier les premiers principes, cela vous appartient à vous-même, car ne niez-vous pas cette lumière qui est le fondement de tout, et par laquelle et en laquelle tous les mystères du royaume de Dieu sont vus. Et à la place de cela, n'établissez-vous pas une connaissance notionnelle englobante, tirée de votre propre conception, compréhension et collecte à partir de la lettre, alors que nul ne peut comprendre la lettre sinon en venant dans la lumière et en y demeurant. Nous en avons fait l'expérience autrefois en nous-mêmes, car nous ne faisions que conjecturer et imaginer au sujet de la lettre, jusqu'à ce que nous soyons tournés vers la lumière de l'Esprit de Dieu, que nos esprits y soient rassemblés et qu'elle nous comprenne. Et quant à renier l'espérance du royaume de Christ, le Seigneur sait que nous en sommes bien loin, car nous-mêmes le bénissons pour ce qui de son royaume est déjà apparu, et nous attendons et espérons une apparition plus grande et plus pleine de celui-ci. Mais nous confessons ceci, un autre esprit, un autre Christ, une autre lumière, une autre vie, une autre puissance, un autre royaume, en dehors de celui qui est déjà apparu, nous ne l'attendons pas, car il est notre roi et notre royaume tout ensemble, et la moindre proportion de sa vie et de son esprit reçu acheté au prix de la perte de tout. Et ainsi acquis et possédé n'est rien moins qu'une perle de grand prix et un royaume céleste pour celui qui en jouit. Il ajoute encore, « Si Christ n'est qu'un principe, alors nous ne sommes pas autre chose et seuls des principes seront sauvés, et non des personnes. Est-ce là votre évangile et réponse ? Christ est la semence promise à laquelle appartiennent toutes les promesses et en laquelle toutes les familles de la terre sont bénies, à mesure qu'elles sont rassemblées à lui et greffées en lui. Mais il n'est pas seulement la semence, il est aussi le semeur, qui sème de sa vie, de sa nature, de son esprit, de son image céleste, dans le cœur des enfants des hommes. Il leur donne une mesure de la grâce et de la vérité, dont il a reçu la plénitude de son Père. Or cette mesure de la lumière éternelle est très précieuse, et c'est par elle qu'il apparaît et se manifeste. Oui, en vérité, on dit et on témoigne des choses glorieuses au sujet de la semence de vie, de la semence du royaume, de la grâce et de la vérité qui viennent par Jésus-Christ. Mais nous n'avons jamais dit que cette semence ou cette mesure de vie soit la plénitude elle-même. C'est ce que la plénitude nous communique et par quoi elle apporte le salut jusqu'à notre porte. Et si quelqu'un veut recevoir Christ, il doit recevoir de Christ ce par quoi il se manifeste. Il y a une différence entre la lumière qui éclaire, la plénitude de lumière, qui nous donne la mesure de lumière, la mesure d'onction et la mesure ou proportion qui est donnée, l'une est Christ lui-même, l'autre est son don. Pourtant son don est de même nature que lui-même, et il fait lever ceux qui le reçoivent et y demeurent jusqu'à la même nature, de sorte que non seulement le don est un avec lui, mais nous aussi nous sommes un avec lui dans le don. Allons, ne soyez pas ainsi sages selon la chair, et ne vous efforcez pas ainsi, dans votre sagesse et votre connaissance hors de la vérité de triompher de la vérité et du témoignage de la vérité, en ce jour du grand amour de Dieu et du bras glorieux du salut, révélé au milieu de son peuple, qu'il a rassemblé hors de Babylone et de sa sombre connaissance, dans la lumière et le royaume de son Fils bien-aimé, où il leur donne la vie éternelle et les fruits de la bonne terre céleste. Il ajoute, « Je crois fermement, et ainsi tous les saints qui nous ont précédés, que Christ est une personne, et que son esprit est un principe vivant dans le cœur de tous les fidèles. » Mais ce n'est pas l'esprit ou le principe en nous qui nous a rachetés, mais l'homme Christ Jésus. Réponse : s'il entend par l'homme Christ Jésus le second Adam, l'esprit vivifiant, l'homme céleste, le Seigneur venu du ciel, celui qui est un avec le Père, la parole qui était au commencement, qui a créé toutes choses, je lui accorde qu'il est le Rédempteur, car c'est lui qui a déposé sa gloire, dont il était glorifié avant que le monde fût et s'est anéanti, prenant la forme de serviteur, et venant comme serviteur, sous l'apparence d'un homme, pour faire la volonté du Père. Mais s'il distingue Christ de cette parole et de cet esprit, et fait de la nature humaine le Sauveur, et de la divinité seulement son auxiliaire, comme il semblait l'exprimer auparavant, et comme ses paroles semblent l'impliquer, je le nie absolument. Car l'Écriture témoigne ainsi, « Je suis l'Éternel, et hors moi il n'y a point de Sauveur. Je suis un Dieu juste et un Sauveur, etc. » Ainsi Christ est le Sauveur, en tant qu'il est un avec Dieu. C'est le bras et la puissance de Dieu révélés en lui qui opèrent le salut. Oui, si je puis parler ainsi, son obéissance avait de la valeur parce qu'elle venait de l'Esprit, et c'est l'avoir offerte par l'Esprit éternel qui l'a rendue si agréable à Dieu. Ainsi nous ne devons pas attribuer la rédemption originellement à lui en tant qu'homme, mais à lui en tant que venant de Dieu, et rapporter tout l'honneur à la source et à la fontaine d'où il tenait tout, afin que Dieu soit tout en tout, et que le royaume même de Christ dure et demeure à jamais, dans la racine de vie d'où il est issu. Et ainsi, lui l'homme Jésus n'est pas un fondement ni une pierre angulaire distinct de Dieu. Lui, comme fondement, était et est le rocher des siècles, le rocher spirituel, tant avant qu'après avoir pris le corps préparé pour lui. C'est l'Esprit, la vie révélée dans cet homme, par laquelle il fit la volonté de son Père, qui était et est le fondement sur lequel toutes les pierres vivantes sont bâties. Il y a un fondement de mort, et c'est l'Esprit méchant, il y a un fondement de vie, et c'est le Saint-Esprit, par lequel Christ lui-même fut conduit et guidé dans cette apparition dans la chair, qui descendit sur lui, dont il fut oint, et dont tous les siens doivent être oints, et vivre dans le même esprit. Et celui qui connaît Christ dans cet esprit a la vraie et durable connaissance de lui, et pas autrement, et bien que les noms Messie, Jésus, Christ, Sauveur, oint, etc. lui aient été donnés, comme étant dans la chair, ou comme homme, ils lui appartiennent le plus proprement et originellement au regard de la vie et de la naissance divines en lui, comme l'envoyé et l'unique engendré, procédant du Père, le rayonnement de sa gloire, etc. Car lui, en tant que Fils éternel de Dieu, était le rocher spirituel avant de prendre ce corps qui fut préparé pour lui, lequel fut expressément appelé le corps de Jésus, et qu'il appela ce temple, et distinctement, lui étant appelé Jésus-Christ venu en chair, ce que tout esprit qui ne le confesse pas n'est pas de Dieu, mais est l'esprit de l'Antichrist. 1 Jean 4:3. Il parle de s'asseoir sur le trône de David. Réponse : c'est une grande chose de connaître ce trône dont le trône de David était le signe, et Christ assis dessus. Son royaume, son trône, ne sont pas de cette nature extérieure et mondaine, mais intérieures et spirituelles, et son trône est dans son royaume et son temple, où il règne et est adoré. Celui qui connaît Satan déshonoré et chassé connaît aussi Christ entrant et s'asseyant sur son trône. Aussi les hommes cessaient de rêver à la gloire céleste, et y venaient sous la conduite de l'Esprit de Dieu, là où elle est révélée. L'Écriture a-t-elle été écrite en vain au sujet de l'état glorieux de l'Évangile ? Mais nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Cor 3:18. Il élève une prière pour nous, afin que le Seigneur nous réveille, nous fasse faire nos premières œuvres et nous ramène à notre premier amour. Réponse. Pauvre homme, combien il est aveuglé, ne discernant pas comment le Seigneur a fait cela pour nous, et bien davantage. Mais c'est lui-même qui a perdu son premier amour et ne fait pas ses premières œuvres, et l'on trouve en lui moins de cette tendresse, de cette promptitude et de cette saveur qui étaient autrefois en lui. Oh, s'il pouvait le voir et retourner à celui dont la vertu vivifiante restaure et guérit, il conclut par les paroles du prophète Jérémie 13:15-17, « Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez pas orgueilleux, car l'Éternel a parlé. » Rendez gloire à l'Éternel votre Dieu, avant qu'il ne fasse venir les ténèbres, et avant que vos pieds ne trébuchent sur les montagnes obscures, et tandis que vous attendez la lumière, il la changera en ombre de mort, et en fera de profondes ténèbres. Mais si vous ne l'écoutez pas, mon âme pleurera en secret à cause de votre orgueil, et mes yeux pleureront amèrement et ruisselleront de larmes, parce que le troupeau du Seigneur est emmené captif. Réponse : comme cet homme se trompe dans sa manière de voir et d'appliquer les Écritures, en les voyant et en les appliquant dans un esprit erroné. Il est vrai que le Seigneur a parlé, mais lui-même, et beaucoup de ceux qui lui ressemblent, n'ont pas prêté l'oreille. Et quelle en est la raison, sinon qu'ils se sont élevés au-dessus du pur principe de vie dans leur propre cœur, et de tels ne sont-ils pas orgueilleux? N'a-t-il pas, dans l'orgueil de son cœur, produit dans ce papier ses armes, ses fausses accusations et ses raisonnements, contre l'héritage de Dieu? Quant à nous, le Seigneur Dieu nous a humiliés et instruits, nous qui avons appris, et apprenons chaque jour de lui dans l'humilité, et c'est dans l'humilité et la crainte que nous rendons notre témoignage, quoiqu'aussi dans l'autorité et la majesté du nom de notre Maître, dont le nom surpasse et est exalté au-dessus de tout nom, et dont la montagne et l'assemblée sont, dans la pure autorité et puissance de son esprit, au-dessus de toutes les autres montagnes et assemblées quelles qu'elles soient. Et quant au fait que Dieu ferait venir les ténèbres, qu'il les attende, lui et ceux qui lui ressemblent, car Dieu ne fait pas et ne fera pas venir les ténèbres sur ceux qu'il a rassemblés dans la lumière de son esprit, mais il leur a dit « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi, ô cité et demeure du Dieu vivant. » Mais sur ceux qui ne connaissent pas son apparition, ou qui s'y opposent, et qui exaltent les anciennes dispensations de la même vie et puissance, mais qui outragent et blasphèment le présent, sur cela il fait tomber et les recouvrir de profondes ténèbres. Et ce dont il nous menace est déjà tombé sur lui-même. Ses pieds ont trébuché sur les montagnes obscures, et tandis qu'il cherche la lumière, il a perdu ce qu'il avait autrefois, et sa propre lumière telle qu'il l'estime est devenue obscurité et profonde ténèbres, et ce papier ténébreux qui est le sien, issu d'un esprit et d'un principe ténébreux le rend manifeste à tous ceux qui le liront avec quelques mesures de vrai sens ou de discernement. Et en vérité, mon âme pleure en secret à cause de son orgueil et de sa hauteur d'esprit, en s'opposant au Seigneur, à sa vérité et à son peuple. Et pour cette cause, ceux qui se sont regardés comme les enfants du royaume et le troupeau de Dieu seront dévastés, et ils sauront que, comme il était chose terrible de s'opposer à Christ Jésus le Seigneur dans son apparition en chair, il est aussi terrible de s'opposer à son apparition en esprit et en puissance, par laquelle il s'est levé pour établir son royaume et renverser Babylone, qui est bâtie à la ressemblance de Sion, mais parée dans un autre esprit. Que ceux en qui il y a quelque tendresse envers Dieu et à qui il reste de vrais soupirs après lui, le Seigneur leur donne le sens et la vraie intelligence de cette apparition intérieure et spirituelle de son Fils, et de ce qu'ils ont fait et font contre elle, afin qu'ils ne continuent pas à combattre contre le Seigneur et à regimber contre ce qui peut blesser et piquer, à leur propre dommage et ruine éternelle. Car il n'y a de salut en aucun autre nom que dans ce qui est maintenant révélé, heureux tous ceux qui s'y confient, car ce n'est pas un autre, mais le même que celui qui a toujours été. À son post-scriptum, il commence par la justification de ce passage d'une de ses lettres précédentes qui m'était adressée, où il disait « Christ est le ciel, et moi je suis l'enfer ». Réponse : quand Dieu visite l'homme, il le trouve en union avec l'enfer, la mort et les ténèbres, et l'homme est mort, est dans les ténèbres, est d'une nature et d'un esprit infernaux en cet état. Mais quand le Seigneur l'a converti, l'a retranché de cette racine, l'a pétri du levain de l'esprit et de la nature de son Fils, est-il encore l'enfer ? Vous étiez ténèbres, disait l'apôtre, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et vous étiez de cela, mais vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus, et par l'Esprit de notre Dieu. Un homme ne peut être que l'enfer avant d'être lavé, avant que sa souillure soit purgée par l'esprit de jugement et de brûlure, avant que le vieux levain soit ôté, et qu'il soit sanctifié et fait une pâte nouvelle. Mais après que le Seigneur l'a ainsi changé et recréé en Christ, est-il encore l'enfer? Il a dit, il n'appelle pas l'homme nouveau l'enfer, mais il y a un vieil homme, un homme extérieur, aussi bien que l'homme nouveau et l'homme intérieur, la chair aussi bien que l'esprit dans le régénéré. Réponse, que veut-il dire par l'homme extérieur? Le corps pécheur, le corps de chair, est au-dedans. Le corps extérieur, celui-là n'est pas l'enfer, c'est le temple de Dieu, où le cœur est sanctifié, et la pure parole de vie sanctifie de part en part, jusque dans l'âme, dans le corps, dans l'esprit, ceux qui lui sont soumis. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Dieu vivant? Et vos esprits plus encore, car Dieu est esprit, et il demeure dans un temple spirituel, et son temple est saint. Il ajoute, et à moins que votre état ne dépasse celui de Paul, il a trouvé qu'en lui, c'est-à-dire dans sa chair, il n'habitait rien de bon, et que la chair convoitant contre l'esprit, il ne pouvait faire la chose qu'il voulait. Réponse: Paul a une fois éprouvé un tel état, il se sentait charnel, vendu au péché, lorsqu'il ne trouvait pas comment faire le bien, mais faisait ce qu'il haïssait, la loi du péché étant forte dans ses membres contre la loi de la vie dans son esprit, état qu'il appelle un état de captivité sous la loi du péché dans ses membres, et qu'il appelle un état misérable. Romains 7, 23-24. Mais Paul n'a-t-il jamais éprouvé un autre état? N'a-t-il jamais rendu témoignage à la vertu et à la puissance de la nouvelle alliance, à savoir la loi de l'esprit de vie, et à sa puissance, le délivrant de la force et de la captivité de la loi du péché dans ses membres? Il y avait des jeunes gens, dont Jean parle, qui étaient forts et avaient vaincu le malin. Paul lui-même n'atteignit-il jamais cet état? Il exhortait les autres à être forts dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, et leur montrait comment résister en elle, de manière à vaincre. Ne l'a-t-il jamais éprouvé et attesté lui-même? Il a dit qu'il avait combattu le bon combat et qu'il était plus que vainqueur. Quoi, était-il donc captif de la loi du péché dans ses membres? Et criait-il alors, « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Il a dit, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » N'était-ce pas là un état différent de cet autre dans lequel il ne trouvait qu'à vouloir et ne pouvait faire le bien qu'il désirait, mais faisait le mal qu'il n'approuvait pas, mais qu'il haïssait? Et béni soit le Seigneur, il y en a beaucoup aujourd'hui qui témoignent d'un état plus avancé de rédemption et de délivrance du péché, et de sa loi dans les membres, que cet état de captivité sous lequel Paul exprimait là ses gémissements et ses plaintes d'autrefois. Car il n'était pas dans cet état de captivité lorsqu'il écrivit cette épître, mais il connaissait la domination de la grâce sur le péché, et il disait à cette église, « Soyez soumis à la grâce, et ne cédez pas au péché, mais livrez vos membres comme serviteurs de la justice pour la sainteté. » Chap. 6. Quant à cet autre passage, où la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair, Galates 5-17, il ne parle pas là de lui-même, mais des Galates, qui étaient dans un état faible, bas et en effet déchus de l'esprit et de la puissance de l'Évangile, ayant laissé entrer ce qui y était contraire. Ainsi s'efforce-t-il de les rassembler de nouveau dans l'esprit, et leur ordonne de vivre dans l'esprit, et de marcher dans l'esprit, et ainsi ils n'accompliraient pas les convoitises de la chair, car dans la nouvelle alliance, l'homme est instruit par Dieu de la sainte leçon de cesser de faire le mal et de faire le bien, et instruit dans la vertu et la puissance de l'alliance, de sorte qu'il apprend chaque jour, et grandit chaque jour en sortant de la tromperie pour entrer dans la vérité, jusqu'à devenir un véritable Israélite, en qui il n'y a point de fraude. Et ainsi, dans la guerre spirituelle, la maison de Saül devient de plus en plus faible, et la maison de David de plus en plus forte, jusqu'à ce que le royaume de Saül soit enfin renversé et entièrement détruit, et que le royaume de David soit établi dans la justice à jamais. Alors Jérusalem, l'édifice saint, la cité du peuple vivant, la cité de justice, demeure de justice et montagne de sainteté, est connue, et Jérusalem est reconnue comme une demeure paisible, la paix étant dans toutes ses frontières. Alors l'esprit est pleinement appuyé sur le Seigneur en toutes conditions, et il le garde dans une paix parfaite. Alors l'âme ne s'inquiète de rien, mais en toute chose fait connaître ses demandes à Dieu par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde le cœur et l'esprit en Jésus-Christ. Assurément l'apôtre avait lui-même appris, quand il enseignait cela aux autres, à être content en tout état. Il savait être abaissé, et il savait abonder, etc. Ô état glorieux, ô état pur de vie pure dans le cœur, et si j'ajoutais, ô état parfait, l'apôtre Jacques a dit, que la patience accomplisse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et entiers, ne manquant de rien ou en rien. Jacques 1, 4. Quand Paul avait ainsi appris Christ, de sorte que l'abondance ne pouvait l'enorgueillir, ni le manque l'abattre, ou le faire murmurer ou se défier, que lui manquait-il de cet état parfait? Ses paroles suivantes sont, « Si vous n'avez aucun sens de cela, votre état n'en est jamais davantage à aimer. » Réponse, Christ a emmené captive la captivité, et la même puissance est révélée pour emmener captive la captivité en nous. Et vraiment, lorsque Dieu fait sortir nos âmes de la captivité, mettant sa crainte au-dedans de nous, écrivant sa loi vivante et puissante de vie dans nos cœurs, et mettant son esprit en nous, nous conduisant dans le chemin de la sainteté et nous faisant y marcher, nous trouvons que c'est là un meilleur état que lorsque nous gémissions sous une profonde captivité. Il a dit en outre, « Si votre paix et votre joie consistent à ne voir aucun péché vous-même, en vous-même, je suppose que cela devrait être, je soupçonnerai d'autant plus que ce ne soit pas la paix et la joie de Paul et de tous les saints, mais une illusion. » Réponse : Notre paix et notre joie sont en celui qui est sans péché, et elles abondent en nous, par son œuvre de nous purifier et de nous délivrer du péché. Et nous avons trouvé qu'il ôte le péché aussi loin de nous que l'Orient est éloigné de l'Occident, et comme il ôte de nous la transgression, et met fin en nous au péché et à la puissance de Satan, il nous donne de sa paix et de sa joie. Et vraiment, nous ne le voyons pas seulement détruire le péché et les œuvres du diable, mais briser la tête même du serpent, le chasser, et transpercer les Leviathan, ce serpent tortueux, et tuer le dragon qui est dans la mer. Et bien que quelqu'un comme lui puisse soupçonner notre paix et notre joie, pourtant tant que Christ nous les donne et les maintient en nous, elles nous sont très douces et agréables, et le temps peut venir où, du fond du cœur, il souhaitera pouvoir y participer avec nous. Il conclut l'affaire ainsi, « Nous sommes sans péché en lui, mais en nous-mêmes rien que péché. » Réponse, il parlait d'illusion juste auparavant, « Je n'en connais pas de plus grande que celle-ci. » Car Christ opère un réel changement, si quelqu'un est en Christ, il y a une nouvelle création, il y a un changement réel. L'homme n'est pas ce qu'il était auparavant, mais il dépouille le vieil homme et revêt le nouveau, et ainsi il est réellement changé dans son état et aux yeux de Dieu, et il n'est plus ce qu'il était auparavant. Le cœur, lorsqu'il est réellement renouvelé et lavé par l'eau, le sang et l'esprit, n'est pas l'ancien cœur abominable, méchant et trompeur qu'il était auparavant. Si telle est sa connaissance et son expérience qu'il la garde pour lui, pour ma part je ne désire pas y avoir part, mais être semblable à Christ mon Seigneur et Maître, sanctifié entièrement en âme, corps et esprit, afin que je lui appartienne tout entier, et que l'ennemi de mon âme n'ait aucune part en moi. Il a dit, Christ apparaîtra sans péché pour le salut. Réponse, je l'accorde, mais quand, et comment, n'apparaît-il pas intérieurement sans péché pour le salut à ceux qui ont attendu, athée et atteint le jour intérieur? Christ n'apparaît-il pas sans péché pour le salut intérieurement au jour de son propre esprit? Le salut n'est-il pas alors attesté comme mur et rempart? Le salut glorieux de l'Évangile n'est-il pas produit au jour de l'Évangile? Et n'y a-t-il pas, dans la vie et la domination de la grâce, une pure défense autour de toute la gloire? Y a-t-il quelque péché dans la grâce et l'esprit de l'Évangile qui apparaissent et brillent au jour du Seigneur? Et cette grâce n'apporte-t-elle pas le salut à ceux qui attendent sa révélation? Il semble se disculper de guetter nos faux pas. Réponse, s'il n'avait pas guetté nos faux pas, et s'il n'avait pas acquis des choses et ne les avait pas considérées dans la partie prévenue, il n'aurait pas pu écrire un tel écrit contre la vérité et contre nous, si éloigné de la vraie intelligence et du vrai jugement que celui-ci. Mais il a dit, il a guetté nos repentirs. Réponse, si nous devions nous repentir d'avoir eu les yeux ouverts par le Seigneur, et de nous être tournés vers sa vérité, et d'avoir reçu son Saint-Esprit, et que les précieuses promesses de l'Écriture nous aient été confirmées et accomplies en nous, nous pourrions à juste titre perdre à jamais notre part et notre héritage de vie. Nous nous sommes repentis des œuvres mortes, mais nous ne pouvons nous repentir de la pure vérité de Dieu, ni de la voie vivante, de l'Esprit et de la puissance qui y sont. Mais je puis lui dire ceci, et cela de la part du Seigneur dont je révère et adore le nom, le Seigneur guette ses repentirs et ses détourde avec cet esprit en lui qui l'obscurcit au sujet de la vérité et le prédispose contre elle. Il me supplie avec amour, etc. Et exige que je me disculpe du libre arbitre, de la chute hors de la grâce, du refus de l'élection des personnes et de la justice imputée. Réponse, ce que le Seigneur exige de moi, je dois y prendre garde, et j'ai, à diverses reprises, exprimé mon cœur à nu sur ces choses. Le principe de vie que le Seigneur a suscité en moi, c'est en lui qu'est la liberté de faire le bien, et c'est en lui que je suis rendu libre par Jésus-Christ, mon Seigneur. Et je préférerais plutôt le voir me soutenir par sa puissance que de contester sur une notion de tomber ou de ne pas déchoir. Et mon souci a été de rendre ferme en lui mon appel et mon élection, lui qui est sûr pour ceux qui sont à lui pour toujours. Et j'ai vu la justice du Seigneur Jésus-Christ révélée en moi et imputée à moi, et mon âme en être revêtue devant lui, béni soit son nom. Oh, que les croyants de cet âge puissent venir à l'onction et voir ces choses dans l'onction. Alors ils connaîtraient la vérité et l'harmonie des Écritures en elles. Mais les hommes, par la lettre sans l'esprit, ne peuvent jamais discerner ni découvrir le mystère de la vie, ils ne font que rassembler dans leur esprit et retenir une connaissance littérale qui tue. Il me dit, aimez la vérité mieux qu'un parti. Réponse, le Seigneur sait qu'il m'a appris à faire ainsi, car sans l'évidence et la démonstration de l'Esprit de Dieu dans son peuple, je n'aurais jamais pu les reconnaître. Car ô combien faible était, à mes yeux, la connaissance qu'il mettait en avant que la puissance du Seigneur atteint mon cœur, y relevant sa propre semence par laquelle je les ai connus. Et le Seigneur sait aussi que c'est en lui que je les aime, les discerne et les honore jusqu'à ce jour. Oui, je vois son nom écrit sur leur front, et je les vois produits dans l'image glorieuse et la vie céleste de son Fils, bien que cela soit caché à l'œil sage des croyants de cet âge, et dans la vraie lumière, avec le vrai œil que Dieu a ouvert en moi, je l'ai vu. Il parle de se cramponner ensemble et de maintenir un parti contre tout droit. Réponse non, non, c'est ici le rassemblement du Seigneur Jésus-Christ par son esprit et sa puissance, après la longue nuit de ténèbres, et nous sommes maintenus par le même esprit, la même puissance et la même vie de vérité qui nous ont rassemblés. Il a dit, ce n'est pas un appel à une œuvre au-dedans, qui vous donnera autorité de ravager Christ et l'Évangile dans leurs vérités les plus fondamentales et les plus importantes, et celles mentionnées ci-dessus, etc. et surtout par-dessus tout, nier la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et en faire seulement une lumière ou une notion ou un principe dans le cœur de l'homme. Réponse : ce n'est là que sa propre méprise et non une accusation vraie et juste contre nous, comme il le verra un jour. Le Seigneur ne nous a pas appris à ravager, et nous ne ravageons aucune vérité de l'Évangile, nous reconnaissons toute chose à sa place. Et quoique notre religion ne consiste pas en des notions à son sujet, mais dans le principe même de la vie, c'est-à-dire dans la grâce et la vérité qui sont par Jésus-Christ, qui est une mesure de lumière venant de lui, la pleine lumière, pourtant, nous n'apprenons pas par là à nier la pleine lumière, mais d'autant plus à la reconnaître. Et nous le reconnaissons comme la lumière vraie et pleine, et sa manifestation extérieure dans ce corps, en la plénitude des temps, pour y accomplir la volonté du Père, et sa manifestation en esprit et en puissance dans les cœurs de son peuple au jour de l'Évangile, et l'établissement de son royaume spirituel et glorieux là, où il règne comme roi sur le trône de David, sur l'Israël spirituel de Dieu. Venez, considérez sérieusement, ne manquez-vous pas vous-même non seulement du principe et de la puissance de la vie, mais aussi de la vraie connaissance des choses selon la lettre, il avoue, il y a trop peu de puissance, et sans elle, la profession ne vaut guère. Réponse : oh ! Que les croyants de cet âge connaissent les Écritures et la puissance de Dieu, et aient cette connaissance qui vient de la puissance et se tient dans la puissance. Car alors serait éprouvée cette évidence et cette démonstration de la vérité qui met fin aux disputes et aux raisonnements de l'esprit, et alors le grand souci serait de vivre la vie de ce que Dieu manifeste et exige dans la nouvelle alliance. Il a dit : abattre les piliers et les principes de l'Évangile, c'est l'œuvre à laquelle le diable emploie sa puissance. Réponse : j'accorde que ce qu'il a dit est vrai et souhaite qu'il sache l'appliquer correctement, mais il y a une grande erreur et méprise dans son jugement à ce sujet. Car le Seigneur abat ce que les hommes ont édifié, qu'ils peuvent, dans leur jugement erroné, appeler principe et fondement, et il édifie ce que les hommes ont foulé aux pieds, à savoir le tabernacle de David qui est tombé depuis longtemps, et la cité du Dieu vivant, longtemps piétinée aux pieds des faux chrétiens. Et la puissance du diable œuvre grandement pour s'opposer à cette manifestation et à cette œuvre puissante du Seigneur en ce jour. Qu'il prenne garde de blasphémer la puissance du Seigneur, l'appelant celle du diable, et de reconnaître la puissance du diable pour celle de Dieu. Il conclut ainsi, venons au point. Quelle chose singulière faites-vous de plus qu'en la façonnant et en la mettant en mots, si ce n'est seulement que de vous sont sortis des hommes qui ont, plus audacieusement, levé un étendard contre les vérités scellées et expérimentées de l'Évangile, plus que je n'ai jamais entendu ou lu de quiconque avant vous. Vous parlez de mots, et vous vous vantez de perfection. Moi je vous dis qu'un humble sentiment du néant de l'homme, le chassant hors de lui-même pour vivre et se glorifier en Christ seul, vaut mieux mille fois que toutes ces perfections dont vous vous vantez. Monsieur, acceptez mon zèle pour votre âme. Réponse : nous sommes un peuple, beaucoup d'entre nous qui avons traversé de grandes détresses, faute du Seigneur notre Dieu, et avons extrêmement attendu et soupiré après sa manifestation vivante et puissante. Et pour ma part, je puis dire ceci, si cette manifestation n'avait pas été en puissance, et dans l'évidence et la démonstration de son esprit à mon âme, atteignant et répondant à ce qui était de lui en moi, je n'aurais jamais pu la reconnaître, tant j'en étais jalouse et prévenue contre elle. Et depuis que mon esprit a été tourné vers la pure parole de vie, la parole qui était au commencement, je parle comme en présence du Seigneur, elle a eu des effets singuliers sur mon cœur. La lumière m'a sondé comme jamais je n'avais été sondé auparavant, sous toutes mes anciennes professions, et le Seigneur m'a donné un discernement vrai et pur des choses de son royaume, dans la lumière qui est vraie et pure, et j'ai rencontré des vivifications singulières de son esprit, et la foi qui se tient dans sa puissance céleste, et donne victoire et domination en lui, béni soit son nom. Et l'amour qu'il m'a donné n'est pas notionnel, mais naît de ce qu'il a circoncis mon cœur, et répond à sa nature, jaillissant purement et naturellement vers lui, et vers ceux qui portent son image, et vers toutes ses créatures, oui, même vers ceux qui sont mes ennemis à cause de son nom. Je pourrais aussi mentionner la patience, et la fidélité à sa vérité, avec l'esprit de longanimité qui ne peut s'user, ce que son esprit atteste en moi être d'une nature singulière, avec bien d'autres choses. Je ne suis ni seul, ni le plus éminent, mais j'ai beaucoup d'ego, oui, il en est qui me surpasse de beaucoup dans l'image céleste et divine de mon Père. Et les fruits sont selon la racine de vie en nous, et ainsi reconnus par tous ceux qui nous regardent avec le vrai œil, avec l'œil que Dieu donne et ouvre. Or celui qui a ainsi œuvré intérieurement en nous, le même a exigé de nous certains comportements et certaines expressions extérieures, qui sont folles et faibles à l'œil de la sagesse humaine, mais choisies de Dieu pour cacher la gloire de cette vie à cet œil qui ne la discerne pas, mais méprise le jour des petites choses. Et bien que ce soit la moindre part de notre religion, mais à laquelle nous nous soumettons, parce que cela vient de Dieu, auquel nous n'osons désobéir en rien, pourtant l'esprit qui est contraire à Dieu nous l'impute, comme si cela était tout, ou du moins le principal, par quoi nous différons des autres. Certains appellent les paroles vivantes de vérité venant de nous, quand Dieu, selon sa bonne promesse, nous les donne du baragouin, et vous appelez tout ce qu'il y a de singulier en nous un simple façonnage et une mise en mots. Hélas! C'est sur l'essentiel que nous différons de vous, nous tenant notre religion comme nous la recevons de Dieu, dans la lumière et la vie de son esprit, vous comme vous la saisissez par la lettre. Christ est notre rocher et notre fondement, tel qu'il est révélé intérieurement, pour vous, il n'est qu'un Christ conçu extérieurement. Nous croyons avec la foi qui est de la nature de celui en qui nous croyons, foi puissante par Dieu, qui œuvre à travers toutes les puissances des ténèbres, donnant victoire sur elles toutes, selon la voie et le temps de Dieu. Vous croyez avec une foi qui estime la victoire et un état parfait et entier, ne manquant de rien impossible tant que l'on est dans ce monde. Et comme notre racine diffère, tout ce qui croit en nous diffère du vôtre, de sorte qu'en effet tout ce qui est en nous est singulier, et tout aussi singulier tout ce qui est produit par nous, comme l'Esprit du Seigneur, qui connaît la différence des choses, en rend témoignage avons-nous si longtemps marché parmi vous au nom et dans l'Esprit de notre Dieu, montrant quotidiennement les vertus singulières de son Esprit par notre fidèle témoignage, nos souffrances, notre patience et notre conduite. Et vous criez encore, quelle chose singulière faites-vous, tout comme les Juifs qui, après toutes les œuvres puissantes du Christ et les démonstrations extérieures de la vertu et de la puissance de son Père, demandaient un signe. Oh, que vos yeux et vos cœurs soient ouverts par l'Esprit et la puissance du Seigneur. Car alors vous verriez bientôt autrement, à cet égard, que vous ne le faites maintenant. Et quant à cette expression, d'avoir audacieusement levé un étendard contre les vérités scellées et expérimentées de l'Évangile, ce n'est qu'une expression trop assurée, du moins par préjugé et erreur de jugement, car je puis vraiment témoigner que je n'ai jamais appris, depuis que la pure lumière céleste du Seigneur Jésus-Christ a brillé sur mon esprit, à nier une seule vérité qui ait jamais été scellée pour moi ou expérimentée par moi au jour de ma profession précédente, car tout ce qui était alors de Dieu m'a été rendu, et ce. Et j'ai aussi sujet de croire qu'il en est ainsi pour d'autres à cet égard, comme cela l'a été pour moi. Il parle comme si notre différence ou notre discours portait sur des mots. Non, il s'agit de choses, car bien que nous reconnaissions le même Seigneur Jésus-Christ comme fondement de la vie, c'est pourtant d'une manière différente. Vous, comme vous le saisissez notionnellement, nous, comme nous faisons l'expérience qu'il est la pierre précieuse et le fondement de la vie en nous. Et nous rendons témoignage de la justification et de la sanctification, comme nous le voyons nous les accorder et les opérer en nous. Mais quant à se vanter de perfection, je m'étonne qu'il ose parler ainsi. Quoi, n'y a-t-il aucune crainte de Dieu devant ses yeux, ou dans son cœur, pour qu'il ose nous imputer ce qui est si entièrement faux? Où est l'un de nous qui se soit jamais vanté de perfection, mais que la puissance et l'alliance de Dieu sont capables de rendre parfait, et que la volonté de Dieu est notre sanctification parfaite en âme, corps et esprit, à savoir que nous soyons entièrement levés nés du sel du royaume, et devenions un temple convenable pour lui. Cela nous en rendons humblement et révérencieusement témoignage, et nous y tendons, en son saint nom et dans sa crainte. Et quant à ce sentiment humble du néant propre de l'homme, le tirant hors de lui-même pour vivre et se glorifier en Christ seul, nous le rencontrons et en témoignons dans cette lumière que cette génération de croyants méprise. Mais d'autres, même s'ils peuvent en parler, ne pourront jamais en témoigner véritablement, sinon dans cette lumière par laquelle Dieu le donne et le conserve. Eh bien, les croyants de cet âge qui méprisent la lumière trouveront un jour que ce qu'ils se croient être, ils ne le sont pas aux yeux de Dieu, et que nous ne sommes pas devant lui ce qu'il nous représente avec reproche, mais nous sommes son ouvrage en Jésus-Christ, créé par lui pour de bonnes œuvres, et qu'il nous est naturel de produire les fruits de justice et de sainteté pour notre Dieu, quels que soient les reproches des hommes. Quant à son zèle pour mon âme, qu'il désirait que j'accepte, c'est un zèle étrange, et il tendrait à ma ruine totale s'il avait pouvoir sur moi. Mais béni soit mon Dieu qui m'a appelé à la lumière de son Fils, et je suis assuré qu'il m'y préservera dans ce saint esprit de vie où il m'a rassemblé, contre tous les esprits trompeurs de ténèbres quels qu'ils soient, dans cette sainte alliance par laquelle sa force m'apparaît et se révèle en moi. Et oh, qu'il puisse connaître quel est cet esprit par lequel il s'est ainsi dressé contre le Seigneur, quoique sous prétexte que ce fût pour lui, et n'en produire plus les fruits. Pour conclure, j'ajouterai quelques mots sur ce passage fil. 3:3 Car c'est nous qui sommes la circoncision, nous qui rendons un culte à Dieu par l'Esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. C'est une chose précieuse que de voir cette Écriture accomplie dans le cœur, d'y éprouver ce qui circoncit intérieurement, ce qui retranche le prépuce du cœur, qui le recouvre et le voile jusqu'à ce qu'il soit retranché par la manifestation intérieure de la vie et de la puissance du Seigneur Jésus-Christ révélée au-dedans. Puis, lorsque cela est fait, je puis dire véritablement et sensiblement, je suis juif intérieurement, Comment cela se prouve-t-il? Eh bien, je suis circoncis intérieurement. J'ai senti au-dedans ce qui circoncit le cœur, et j'ai porté la douleur et la coupure intérieure, et j'ai été circoncis par cela. Ce qui se tenait entre moi et le Seigneur a été retranché, le voile a été ôté, ma nature raide de cou et rebelle à Dieu a été enlevée, le mur de séparation a été brisé intérieurement, et maintenant je suis dans une véritable unité d'esprit et communion avec mon Dieu, avec le Père et le Fils, dans cet unique Saint-Esprit par lequel ils sont un. Maintenant je puis me prosterner devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ et l'adorer dans son propre esprit, dans la vie nouvelle et fraîche de celui-ci, jour après jour. Maintenant ma joie est en Jésus-Christ, que le Père a envoyé, à la fois extérieurement dans un corps de chair pour accomplir la volonté sainte et faire, en ce corps, ce que le Père avait à lui faire faire, et aussi intérieurement, en son esprit et sa puissance, jusqu'à mon cœur pour y détruire les œuvres du diable, et ainsi me faire sortir de l'inimitié et de l'état non réconcilié pour entrer dans l'amour et la réconciliation. Et je ne puis que me réjouir, tant de ce qu'il a fait pour moi dans son corps de chair, que de ce qu'il fait par son esprit et sa puissance en moi. Et béni soit le Seigneur, je le sens proche, son esprit proche, sa vie proche, sa puissance proche, sa pure vertu proche, sa sainte sagesse proche, sa justice proche, sa rédemption proche, car il est mon rocher, ma force et mon salut, jour après jour. Et je n'ai aucune confiance dans la chair, en ce que je suis, en ce que je puis faire selon la chair, mais ma confiance est en lui, qui m'a affaibli, qui m'a dépouillé, qui m'a appauvri, qui m'a réduit à rien en moi-même, afin que je sois tout en lui, et que je le trouve tout pour moi. Il est ma paix, il est ma vie, il est ma justice, il est ma sainteté, il est l'image par laquelle je suis renouvelé, en lui mon acceptation auprès du Père, il est mon avocat, il est mon espérance et ma joie pour toujours. Il a détruit en moi ce qui était contraire à Dieu, et le maintient abaissé à jamais. Il est mon berger, son bras m'a rassemblé, et son bras m'entoure jour après jour. Je repose sous l'ombre de ses ailes, d'où la vertu guérissante de sa santé salvatrice tombe sur mon esprit jour après jour. Oh, je ne puis dire à aucun homme ce qu'il est pour moi, mais béni soit le Seigneur, je le sens proche, sa justice proche, son salut se révélant chaque jour devant cet œil qu'il a ouvert en moi, dans ce vrai sens vivant dont il m'a vivifié. Et maintenant, vous qui avez d'autres notions et une connaissance riche et étendue de ces choses, mais non la chose elle-même, la vie elle-même, l'esprit lui-même, la nouvelle alliance vivante et la loi de vie elle-même, par lesquelles seul Christ est réellement révélé. Ah, combien vous êtes pauvres, misérables, aveugles et nus, au milieu de toute votre connaissance traditionnelle et de vos prétendues expériences à cet égard. Venez, restez tranquilles un moment, et cessez l'amertume d'esprit et les invectives contre l'œuvre et le peuple du Seigneur, car le Seigneur sait et manifestera qui sont les siens et qui ne le sont pas. Toutes les pierres vivantes sont à lui, mais les grands croyants aux paroles de l'Écriture, sans l'Esprit et la vie des Écritures, ne sont pas à lui, ne l'ont jamais été, et ne seront jamais reconnus par lui. Venez, apprenez à distinguer ce qui vient de Dieu par sa vie, par son onction, par la règle éternelle et infaillible, et non par des paroles sans vie, où a été la grande erreur et la grande méprise de tous les âges et de toutes les générations. La grande voie de tromperie a longtemps été, et est encore, une forme de piété sans puissance. Veillez à ne pas être ainsi trompé, car si vous manquez la puissance qui sauve, vous ne pouvez que périr à jamais. Et si la manifestation intérieure de l'Esprit et de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est ce qui sauve, vous paraît aussi étrange à votre sens, à votre intelligence et à votre jugement que sa manifestation extérieure l'a été au peuple des Juifs. Prenez garde à leur esprit, prenez garde à leur jugement, eux qui jugeaient selon l'apparence des choses pour eux, qu'ils imaginaient et concevaient d'après les Écritures, mais ne jugeaient pas du jugement vrai et juste, que seuls les enfants de la vraie sagesse peuvent porter. Post-scriptum, il y a 4 ou 5 choses très précieuses, généralement attestées au jour des apôtres parmi les vrais chrétiens, et qui sont toutes mentionnées ensemble. Hébreux 6:4-5. Premièrement, ils étaient véritablement éclairés. Les ministres de l'Évangile étaient envoyés par Christ pour tourner les hommes des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Actes 26:18, 1 Jean 1:5. Et ils furent fidèles dans leur ministère et détournèrent les hommes des ténèbres et de la puissance de Satan vers la lumière du Saint-Esprit de Dieu, et ils furent éclairés par elle et reçurent la puissance par elle et devinrent ainsi des enfants de lumière et marchèrent dans la lumière comme Dieu est dans la lumière. Deuxièmement, ils goûtèrent le don céleste. Quel est le don céleste que Christ donne à ceux qui viennent à lui et deviennent ses brebis? Il leur donne la vie éternelle. Jean 10:27-28. Il les fait sortir de la mort et leur donne une saveur et un goût de la vie qui est éternelle. C'est de cela que les apôtres rendaient témoignage, de la vie qui a été manifestée dans ce corps de chair de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Jean 1, 2, et à ceux qui se tournent des ténèbres vers sa lumière, il donne un goût de cette même vie. Troisièmement, ils furent rendus participants du Saint-Esprit. L'Évangile est un jour où la semence spirituelle est produite et où le Saint-Esprit est répandu sur elle. L'état de la loi est un état de serviteur, l'état de l'Évangile est un état de fils, et parce que les vrais croyants en Christ sont des fils, Dieu envoya l'Esprit de son Fils dans leur cœur pour crier « Abba, Père ». Et Dieu ne peut refuser son propre esprit à ses enfants qui le lui demandent. Il sait combien il est absolument nécessaire à l'état d'un fils, et quiconque reçoit véritablement Christ, Christ lui donne le pouvoir de devenir fils, pouvoir qui est en son esprit, avec son esprit, et ne peut en être séparé. Oui, l'esprit de Christ est si nécessaire et si inséparable de celui qui appartient à Christ, que l'apôtre affirme expressément que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, Rome 8, 9. Quatrièmement, ils goûtèrent la bonne parole de Dieu. De cette parole d'où vient le don ? De cette parole qui était au commencement du monde, qui est greffée dans les cœurs de ceux qui croient véritablement, parole qui est capable de sauver l'âme. Cinquièmement, ils goûtèrent les puissances du monde à venir, de la puissance de la vie sans fin, dont Christ est le ministre, et selon laquelle il dispense la vie, dans ce temple saint, vrai vivant intérieur et spirituel, qu'il dresse et élève pour être une demeure de Dieu dans son propre esprit. Or, dans l'apostasie et la nuit de ténèbres qui se sont abattues sur l'état chrétien, ces choses ont été grandement perdues, car il ne s'est trouvé personne capable de tourner les gens vers cette lumière à laquelle l'apôtre dirigeait. Personne ne pouvait dire aux hommes où la lumière devait briller, ni où ils devaient l'attendre et l'espérer. Personne n'était capable de diriger les hommes vers la semence du royaume au-dedans, vers la parole de foi, la parole du royaume, proche dans le cœur et dans la bouche. Encore moins était-il capable d'instruire les hommes sur la manière de la connaître et de la distinguer de toutes les autres semences, et de distinguer la voix du berger de toutes les autres voix. Il arriva ainsi que, bien que parfois Dieu visita et ouvrit les cœurs des hommes, les réchauffant un peu par le souffle qui venait de lui-même toutefois, ne sachant pas comment se tourner vers le Seigneur et l'attendre pour être préservé dans le don et la mesure de sa propre grâce, le bien leur fut bientôt dérobé, et l'édifice qui avait été élevé en ne fut pas un édifice de vie selon l'esprit, mais un édifice de sagesse ou de connaissance des choses de Dieu selon la chair, et ainsi l'édifice élevé dans l'esprit des hommes fut Babylone. Mais le Seigneur a eu, tout au long de l'apostasie, un reste qui a senti quelques commencements de vie, et qui avait, dans une certaine mesure, quelques sens et quelques goûts des choses célestes. Ceux-ci pleuraient après l'état autrefois goûté, et en sentaient le manque, allant de montagne en colline, cherchant leur lieu de repos, que nul ne pouvait leur indiquer à juste titre. Maintenant, à cause de cela, Dieu a enfin paru. Comment est-il apparu ? Dira peut-être quelqu'un. Ainsi, celui qui est lumière est apparu intérieurement, faisant briller sa lumière au-dedans, faisant jaillir sa vie au-dedans, de sorte que celui qui est lumière, qui est vie, qui est vérité, est senti et connu dans ses propres visites intérieures, ses jaillissements et ses apparitions. Car Dieu, qui est esprit, a une apparition spirituelle, son jour est spirituel, son royaume est spirituel, sa lumière est spirituelle, sa vie est spirituelle, son étoile du matin est spirituelle, et son jour se lève, et son étoile du matin se lève dans le cœur. Ainsi le soleil levant d'en haut nous a visités, nous qui étions assis dans les ténèbres et dans la région de l'ombre de la mort. Et ici nous avons rencontré ce que les apôtres ont rencontré, la même lumière de vie, le même esprit et la même puissance qui éclaire, et nous en avons été éclairés, et nous avons goûté le même don. La même grâce qui leur est apparue et qui les instruit nous est apparue et nous instruit, et d'elle nous avons appris les mêmes leçons, dans la même alliance de vie par laquelle ils ont appris. Et maintenant nous pouvons sceller leur témoignage dans le même esprit par lequel ils l'ont publié, et rendre témoignage à la même vie éternelle, et à la même huile sainte et onction, nos yeux ayant été ouverts et maintenus ouverts par elle. Et bien qu'il y ait de grandes disputes au sujet de notre témoignage en ce jour et que les croyants présents se dressent contre nous, comme les croyants d'autrefois se dressèrent contre eux, pourtant, qu'un homme seulement apprenne à distinguer correctement en lui-même ce que Dieu engendre dans le cœur de toutes les autres naissances, et qu'il laisse cela parler et juger en eux, cela confessera bientôt que notre témoignage est de Dieu, et qu'il est donné dans l'autorité et par la commission de son propre esprit. La vraie sagesse est justifiée par les enfants qui sont nés d'elle, c'est l'autre naissance qui ne la reconnaît pas et ne le peut pas. L'autre naissance peut reconnaître les dispensations passées selon leurs lettres, mais non la vie et la puissance du présent. J'ai connu l'abattement de beaucoup de choses en moi par la main puissante du Seigneur, et l'abandon de beaucoup, quoique pas trop pour l'amour de Christ. Le Seigneur a fait venir sur mon cœur le jour de la détresse et du jugement intérieur, il s'est levé pour secouer terriblement la partie terrestre en moi, oui, que dirais-je si j'ajoutais que les puissances des cieux ont été secouées aussi, afin de me rendre capable de recevoir ce royaume inébranlable et d'y être introduit. Et maintenant, ce que Dieu a secoué et ôté en moi, je vois d'autres bâtir dessus, et ils pensent que cela ne sera jamais ébranlé en eux, mais cela ne connaissent pas le jour du Seigneur, ni la terrible recherche de sa lumière pure, ni l'opération de sa puissance, qui n'épargnera pas chez l'un ce qu'elle a repris, condamné, secoué et renversé chez l'autre. Celui qui connaît la pierre vivante au-dedans, et vient à lui comme à une pierre vivante, et est bâti sur la révélation de son esprit, de sa vie et de sa puissance, révélée intérieurement contre la puissance des ténèbres, n'est pas trompé. Tous ceux qui bâtissent autrement, je veux dire sur une connaissance extérieure concernant Christ, et non sur sa vie intérieure, leur édifice ne pourra pas subsister au jour du Seigneur. Je souhaite qu'ils en aient le sens à temps, afin qu'ils ne périssent pas à jamais, mais qu'ils fassent l'expérience de cette vie et de cette puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qui rachète et préserve hors de l'état de perdition pour toujours et à jamais. Amen. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.